Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus. Bienvenue dans Apolline Matin. Nous sommes le mardi 30 juin. Il est 6h58. Et c'est l'info de la nuit, vraisemblablement un attentat à Monaco. C'est ce que disent les autorités locales après une explosion dans un hall d'immeuble. Un sulfureux oligarque ukrainien, sa femme et leur enfant ont été blessés. Le suspect est en fuite. Dans 10 minutes, nous serons avec un journaliste et historien monégasque. Il est sur place, il va nous raconter ce qu'il a vu et pourquoi c'est absolument inédit dans la principauté donc de Monte-Carlo. Des matchs de folie cette nuit, vous les avez peut-être suivis en direct sur RMC. Le Brésil, le Paraguay, le Maroc qualifiés. La France joue sa place en huitième de finale ce soir. France-Suède, ce sera à 23h. Notre fil rouge, Eric Dimeco, viendra nous alerter sur l'excès de confiance des Bleus. Et puis on reviendra évidemment sur les matchs de folie cette nuit. Est-ce que vous allez suivre le match de 23h? Est-ce que vous avez suivi la nuit dernière? Est-ce que vous y croyez pour les Bleus? Vous nous appelez vos réactions, vos récits, le 32-16 et le WhatsApp de l'émission 0612-424-424. Et puis à 7h40, remettre le pouvoir d'achat au centre de la politique. Voilà le projet du député socialiste Philippe Brun, le monsieur économie du Parti Socialiste. Il fait plusieurs propositions. Baisser la CSG pour ceux qui gagnent moins de 4000 euros. En contrepartie, il veut taxer davantage le capital et le patrimoine. Il est mon invité à 7h40. N'hésitez pas à venir l'interpeller aussi sur les questions de pouvoir d'achat et le programme du Parti Socialiste. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine, la canicule se poursuit, mais du côté du Sud-Est.
Exactement. 4 départements actuellement en vigilance orange. Var, Alpes-Maritimes et les deux départements Corse, donc vigilance orange canicule pour aujourd'hui et pour demain minimum. Donc avec des températures qui vont être très contrastées aujourd'hui entre le nord-ouest et le sud-est. On attend jusqu'à 36 à Marseille cet après-midi, 35 à Perpignan ou Montpellier. Et de l'autre côté, on aura 20 degrés à Brest, 25 à Lille. On attend 29 encore à Bordeaux, 30 à Paris, 33 pour Lyon et Grenoble. Et il faudra encore se méfier des orages pour aujourd'hui, notamment vers les frontières de l'Est cet après-midi. Et alors qu'on n'a toujours pas fini la canicule, il y a déjà une nouvelle qui se profile avec, à partir de dimanche, les températures qui vont s'envoler. On attend 34 degrés de moyenne sur le pays.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un homme toujours en fuite ce matin à Monaco, suspecté d'avoir déposé un colis piégé au pied d'un immeuble de la principauté. L'explosion fait 3 blessés, parmi eux un oligarque ukrainien ciblé avec sa famille. Un couple en garde à vue dans le Nord après la mort de leur jumelle de 15 mois retrouvée, semble-t-il, déshydratée. C'est le début des matchs à élimination directe pour les Bleus en confiance. Face à la Suède ce soir, 23h sur RMC après la qualification du Maroc ce matin, tombeur des Pays-Bas.
3 blessés dans une explosion à Monaco.
Probablement un attentat, dit le gouvernement monégasque, du jamais vu dans ce petit état de 2 km carrés. Le prince Albert II évoque un crime odieux. Ça s'est passé hier soir, Romain Hugo, au pied d'un immeuble résidentiel de la principauté aux alentours de 21h.
Oui, quelques minutes seulement après qu'un homme a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de déposer ce qui s'apparente à un sac à dos, un sac qui renfermait en fait une bombe particulièrement puissante au regard des dégâts causés sur l'entrée de cet immeuble, totalement soufflé. L'escalier qui y mène est en partie détruit, laissant de très nombreux gravats et des traces de sang, celles des 3 personnes blessées dans l'explosion, dont 2 sont en urgence absolue, un oligarque ukrainien et sa femme. Un adolescent de 13 ans a lui aussi été gravement blessé. Tous ont été transportés dans des hôpitaux niçois. Le suspect aurait ensuite pris la fuite en direction de Beausoleil, à pied, commune française qui jouxte la principauté. Il a été là encore filmé par des vidéos, par les caméras de vidéosurveillance de la ville, portant un chapeau noir dissimulant une partie de son visage avant de disparaître dans la nature. Il est activement recherché. Une quarantaine de gendarmes français et 2 hélicoptères participent en ce moment à la traque.
Et les 3 blessés seraient a priori membres de la même famille. Parmi eux, Romain, un nom, Vadim Ermoliev, oligarque ukrainien à la réputation sulfureuse.
Oui, c'est la 23e plus grosse fortune d'Ukraine, selon le magazine Forbes, qui estime sa fortune à plusieurs centaines de millions d'euros. Un mania de l'immobilier l'immobilier et de l'agroalimentaire. Il a notamment fait fortune dans les vins de Crimée dont il est originaire et c'est ce qui lui vaut d'être aujourd'hui une personnalité particulièrement controversée, décriée en Ukraine puisqu'il fait même l'objet de sanctions promulguées par Volodymyr Zelensky lui-même depuis 2023, accusé d'avoir poursuivi ses activités de négoce d'alcool en Crimée sous occupation russe. Il est par ailleurs dans le viseur de la Banque Centrale Européenne et déjà été épinglé il y a 8 ans pour violation systémique de la législation sur le blanchiment d'argent.
Les précisions ce matin de Romain Hougues. L'épisode caniculaire touche à sa fin, qu'on se prépare déjà à la prochaine vague, peut-être dès la semaine prochaine, Géraldine vous en parlait. Une reprise n'est pas à exclure, dit Sébastien Lecornu à l'issue d'une nouvelle cellule de crise. 4 départements du Sud sont toujours en vigilance orange. Ce matin, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux Corses. Un épisode qui a fait 2 nouvelles victimes hier. 2 petites filles, des jumelles de 15 mois retrouvées mortes à leur domicile de Beuvrage, près de Valenciennes. Une enquête est ouverte, l'autopsie des corps doit avoir lieu dans la journée. À ce stade, Julie Brault, c'est la piste d'une déshydratation qui est privilégiée.
Oui, aux alentours de 13h hier, à l'intérieur d'une maison HLM, les pompiers et le SAMU découvrent 2 sœurs jumelles mortes sur leur lit respectif. Dans leur chambre, une température élevée a été relevée, laissant penser que les 2 petites filles de 15 mois sont décédées de déshydratation. 4 autres enfants de la fratrie âgés de 2 à 6 ans ont eux été hospitalisés pour évaluer leur état de santé. Selon le parquet de Valenciennes, la famille n'était pas suivie par les services sociaux. Les parents, âgés d'une trentaine d'années, n'ont aucun antécédent judiciaire. Ils ont été placés en garde vu hier pour être interrogé dans le cadre d'une enquête ouverte pour privation de soins ayant entraîné la mort.
Elle accuse le ministre de la Justice de non-assistance de sa personne en danger. La mère de Rosa a porté plainte contre Gérald Darmanin. Rosa, c'est le prénom de cette jeune fille qui accuse de viol Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Liana. À retenir également le chantier de la 69 qui va pouvoir reprendre. Le Conseil d'État a donné son feu vert définitif hier pour la construction de cette portion d'autoroute. 53 km entre Toulouse et Castres au cœur de vives tensions. Et puis la taxe de 2 euros sur les petits colis instaurés en mars, suspendue par la France, on vient de l'apprendre, conséquence de l'entrée en vigueur d'un droit de douane européen de 3 euros pour ces produits vendus sur les plateformes asiatiques qui devaient à la base s'ajouter à la taxe française.
Il est 7h05 sur RMC, la Coupe du Monde, et c'est une nouvelle compétition qui débute ce soir pour les Bleus.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et oui, parce que c'est le début des matchs à élimination directe, 16e de finale ce soir pour l'équipe de France face à la Suède. Il faudra encore une fois veiller tard, coup d'envoi 23h. Au commentaire de ce match, Jean-Louis Tour, vous êtes avec nous ce matin, Jean-Louis, en direct de New York. C'est à New York justement que les hommes de Didier Deschamps vont entamer la deuxième phase de leur mondial, remonter à bloc les Bleus en confiance, Jean-Louis.
Oui, parce que il ne se passe pas une journée sans qu'un grand nom du foot ne soit élogieux envers l'équipe de France. Sur RMC, il y a quelques heures, le Brésilien Romario, champion du monde 94, parlait des Bleus comme de la meilleure sélection du monde. Alors, il faut dire que les Français ont provoqué ces compliments avec une phase de poule réussie, 3 victoires, 10 buts marqués. Mais Didier Deschamps l'a précisé hier en conférence de presse, c'est une nouvelle compétition qui commence et les joueurs vont l'affronter avec confiance et humilité. Le milieu de terrain Adrien Rabiot.
On entend forcément, on voit ce qui se dit, mais on essaye de vraiment rester concentré. Évidemment, il se dit beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qu'on a démontré sur le terrain, ce que l'équipe de France a fait. Il faut essayer de rester concentré sur ce qu'on veut faire, là où on veut aller. On a vu des images de la Suède. On est vraiment concentré sur ce match-là. On le prend pas à la légère du tout.
Et face à la Suède, les Bleus pourront tester les promesses du premier tour comme le trio offensif Dembélé, Olise, Mbappé que le monde entier nous envie. Ces trois-là qui seront accompagnés par le Parisien Bradley Barcola pour tenter de tromper la défense suédoise.
Jean-Louis Tour en direct de New York ce matin. Vous serez au commentaire, je le rappelle, de ce France-Suède ce soir sur RMC, 23h. En cas de victoire, les Bleus affronteront au tour suivant le Paraguay, tombeur surprise au tir au but de l'Allemagne. Pour l'occasion, un jour férié a été décrété dans le pays. L'ambiance n'est pas la même de l'autre côté du Rhin, sorti encore une fois prématurément après l'élimination des phases de poule lors des 2 dernières éditions. On prend maintenant la direction de Monterrey au Mexique. C'est là que le Maroc a décroché ce matin, peu après 6h, son ticket pour les 8e de finale. Finale de la compétition, tombeur des Pays-Bas, éliminé, vous l'avez vécu sur RMC, Edgar Groslot, vous étiez au commentaire de ce match et on vous retrouve Edgar en direct de Monterrey, le Maroc affrontera le Canada au tour suivant, qualifié à l'issue d'une incroyable séance de tirs au but.
Oui, avec des rebondissements dans tous les sens, les Marocains ont bien cru que la séance de tirs au but leur échappait.
deux frappes sur le poteau, un tir au but marqué grâce à un ricochet miraculeux sur le gardien adverse. Finalement, la chance était bien de leur côté. Deux ratés des Néerlandais et un arrêt du portier marocain Yassine Bounou. À la fin, c'est Ismaël Saïbari, meilleur buteur du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde, qui a qualifié les siens. Une libération, d'autant qu'avant la séance de tir au but, les Marocains avaient déjà arraché les prolongations grâce à une égalisation dans le temps additionnel. Au prochain tour, vous l'avez dit, les Marocains ont rendez-vous avec le Canada. Et si tout se passe bien pour eux et pour les Bleus, ils pourraient ensuite croiser la route de l'équipe de France en quart de finale.
Edgar Grollo, en direct de Monterrey, à retenir enfin la difficile qualification du Brésil, qui a dû attendre les toutes dernières minutes de son match face au Japon pour décrocher la victoire. Et la qualification en huitième, victoire 2-1 face au Japon.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et justement, Thibaut, vous parliez à l'instant du fait que le Maroc avait réussi à tomber les Pays-Bas. Et Malik est en direct avec nous, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Malik. Comment ça va, Malik? Malik, vous habitez à Villeneuve-d'Ascq, vous êtes chef de projet, vous avez veillé cette nuit pour soutenir le Maroc?
Oui, on a veillé pour soutenir le Maroc. On est passé par tous nos états, mais c'était fantastique, une super qualification contre une belle équipe. Donc aujourd'hui on est super content de ce qui nous arrive.
La journée commence très 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 bien, Malik, et effectivement, vous le disiez, vous avez dû passer à peu près par toutes les émotions quand même.
Oui, ça a été un match très très compliqué. Après, dans l'ensemble, je pense que le match et la victoire est méritée, parce que je pense que les Pays-Bas ont plutôt accepté de laisser le ballon aux Marocains et ont attendu plutôt bloc bas. Et les Marocains ont quand même eu de multiples occasions et je pense que dans l'ensemble c'est complètement mérité.
L'horaire, vous avez géré, comment ça se passe, parce que là vous enchaînez sur une journée de boulot, j'imagine.
Ouais, là, du coup, je me suis levé pour aller au travail. C'est très compliqué. On va devoir faire en sorte que, voilà, on va devoir tenir le coup, mais ça valait vraiment la peine, en tout cas.
Ça valait vraiment la peine. Écoutez, franchement, magnifique. C'est vrai que cette nuit, il y a eu des sacrés matchs. Ouais, vous vouliez rajouter un truc, Malik?
Je voulais aussi, remercier. Marocain qui doit être super content aujourd'hui, et j'espère qu'on va rencontrer l'équipe de France en quart de finale et qu'on va vivre encore des belles émotions comme on l'a vécu en 2022. Et puis dernier élément,
ça serait fort,
ça serait super. Et dernier élément, Bounou arrête maintenant des pénaltys en lucarne, c'est possible. Voilà, sous la barre.
Voilà, ça y est, c'est fait, c'est dit. Et effectivement, la France, pour le coup, ce sera ce soir à 23h. On y revient tout à l'heure avec Eric Dimeco. Il sera en direct avec nous à 7h40. Pour l'heure, il est 7h10. Restez bien avec nous, parce que c'est le choc et la stupeur à Monaco après ce qui ressemble à un attentat. C'est ce que l'évoquent les autorités. 3 blessés graves hier soir dans une explosion. 3 Ukrainiens, dont un oligarque sulfureux, vous allez l'entendre, parmi les plus grosses fortunes d'Ukraine. Parce que Frédéric Laurent, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui,
vous êtes
bonjour.
Journaliste et historien monégasque en direct de la Principauté. Un attentat à Monaco, c'est rarissime. C'est ce que vous nous dites dans un instant. Vous êtes sur place et vous nous racontez. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Écoutez bien cette histoire hallucinante. Un oligarque ukrainien, sa femme et un enfant qui ont été blessés grièvement hier soir. Il s'agit vraisemblablement d'un attentat. Voilà ce que nous disent les autorités monégasques. Un colis piégé qui a été déposé dans le hall d'un immeuble. Un suspect qui est recherché côté français, qui a pris la fuite. Bonjour Frédéric Laurent.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste, historien monégasque, vous êtes sur place à Monaco. C'est le choc, évidemment, à l'annonce de cette explosion. Un attentat sur le rocher, c'est quasiment inédit. Hein.
C'est inédit. Enfin, je crois qu'il y avait eu un vague attentat il y a vraiment très longtemps. C'était au moment de la guerre d'Algérie, au tout début des années 60, au moment de l'OAS, etc. Il y avait eu quelque chose, mais c'était, enfin, ce sont comme une mesure avec ce qui s'est passé hier soir. Non, c'est même étonnant d'ailleurs.
Alors l'explosion, elle a eu lieu donc à quelques mètres donc avec la frontière de la France. Le principal suspect qui a été vu et suivi quasiment minute par minute sur les vidéos surveillance a visiblement pris la fuite côté français. Les autorités des deux pays sont en alerte, mais au moment où l'on se parle, le suspect n'a toujours pas été appréhendé. Hein. Il est dans la nature.
C'est un endroit un peu excentré. Hein. C'est juste à côté de la frontière. Alors, à Monaco, intramuros, vous avez beaucoup de caméras, effectivement. Je n'ai pas le chiffre exact, mais au moins 1400. Mais une fois que vous avez passé la frontière à Beausoleil, où il y a des caméras, enfin, il n'y a pas la densité de caméras comme à Monaco, et puis c'est très facile de filer, je veux dire. On peut imaginer que le personnage voulait partir en moto, ou une voiture l'attendait, et puis c'est très facile, et 5 minutes plus tard, il est sur l'autoroute.
Beausoleil, effectivement, ça c'est côté français, vous le disiez, Monaco c'est ultra sécurisé, avec des caméras partout, ça paraît donc d'autant plus invraisemblable un attentat de cette nature avec une explosion qui semble-t-il a été entendue jusque loin, qui était vraiment une explosion d'une très grande intensité.
Alors moi j'habite assez loin, moi j'habite sur le rocher, j'ai rien entendu, puis, mais de ce que j'ai pu voir, comme tout le monde sur les télés, effectivement, c'est une explosion très importante, mais je vous dis, comme c'est un endroit un peu excentré, absolument pas animé, je pense que ça a été très facile pour le personnage de fuir et de fuir par la France. C'est-à-dire, en 20 minutes, il devait être à Nice, une ville de 400 000 habitants, ou en Italie, qui était et là, voilà, je pense que ça va être très difficile de rattraper le personnage, voilà. Ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, si ça s'était passé, je dirais, au centre de Monaco, où là, avec le maillage de caméras, je suis pas sûr que le type aurait pu sortir du pays. Quoi.
Donc là, c'est effectivement à la marge, mais dans un immeuble dans lequel, semble-t-il, les seuls habitants de cet immeuble, dans lequel il y avait principalement des bureaux, c'était cet oligarque ukrainien, sa femme et un mineur, semble-t-il leur enfant vraisemblablement, Vadim Ermolaev. Voilà son nom, il est parmi les plus grosses fortunes d'Ukraine, et il avait visiblement quitté l'Ukraine après le début de la guerre en 2022. Il faisait des affaires, semble-t-il, avec la Russie, notamment en Crimée, cette partie justement controversée de l'Ukraine qui avait été envahie par la Russie. Est-ce qu'on bruisse à Monaco déjà de scénarios? Est-ce qu'on imagine que ce puisse être les Russes, voire même les Ukrainiens eux-mêmes?
Je crois que c'est un peu tôt. Hein. Je crois qu'il faut attendre un peu dans la journée pour voir ce qui se passe en principauté. Il y a une forte communauté. Alors, la communauté ukrainienne est un peu plus faible, mais il y a une très forte communauté russe en principauté, très riche hein, en général, et pour les Ukrainiens aussi. D'ailleurs, ils n'ont pas très bonne réputation les Ukrainiens de Monaco, parce qu'ils sont présentés je sais, en Ukraine comme des gens qui ont fui leur responsabilité au regard du pays. Mais c'est pas des déserteurs riches, hein, je vous rassure, hein, c'est pas des
voilà. Oui, on a bien compris qu'il était lui-même propriétaire d'ailleurs de l'immeuble devant lequel il a subi cet attentat et que c'est là qu'il habitait visiblement avec son épouse et cet enfant. Merci infiniment Frédéric Laurent, journaliste, historien monégasque. Vous êtes sur place donc à Monaco et je vous le disais, l'enquête ne fait que commencer, mais le suspect au moment où l'on se parle, malgré le fait qu'il ait pu être suivi jusque sur le côté français du territoire, a été suivi par les caméras, et bien pourtant il s'est fait la malle et au moment où l'on se parle il est toujours recherché. Merci Frédéric Laurent. 7h19 sur RMC, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier est en direct avec nous dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, à partir de demain, les parents pourront prendre 2 mois supplémentaires pour la naissance d'un enfant, et c'est pas si nouveau finalement ce droit.
Eh bien non, le congé maternité ça date d'il y a plus d'un siècle, et à l'époque figurez-vous que c'était déjà pour augmenter la population française.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité à 8h30, ce sera le secrétaire national du Parti communiste français du PCF, Fabien Roussel. Ne bougez pas, il est 7h20 et on se retrouve dans 40 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Tous les matins, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, c'est demain qu'entre en vigueur le nouveau congé de naissance, un dispositif qui va permettre aux parents de prolonger leur présence auprès de leur nouveau-né.
Absolument. Alors actuellement, quelle est la situation? Eh bien, pour la naissance d'un enfant, les mères ont 16 semaines minimum de congé maternité et les pères 28 jours, avec évidemment des variations en fonction du nombre d'enfants. Avec ce dispositif, les parents pourront donc allonger cette durée d'1 ou 2 mois, le premier mois à l'indemnisation de la sécurité sociale. sera de 70% du salaire net et le deuxième mois de 60%.
Alors aujourd'hui, c'est congé, il nous semble évident, mais c'est en fait assez récent, même le congé maternité. Hein.
Ben oui, alors pendant longtemps, évidemment, la question ne s'est pas posée du tout, puisque les bébés, on les confiait à des nourrices, mais c'était pas très égalitaire, puisque les nourrices, c'était surtout pour les riches. Les femmes, disons pauvres, devaient se débrouiller comme elles pouvaient. Et justement, il y a un homme que cette situation révoltait, c'était un député catholique de la fin du 19e siècle, qui a toujours défendu les prolétaires. Il s'appelait Albert Demain, et dans les années 1890, c'est le premier homme politique à proposer un congé maternité. C'était totalement révolutionnaire pour l'époque.
Quand est-ce que cette idée va se concrétiser ?
En 1909, la date est très précise, et cette fois-ci, c'est un député normand, toujours un député de droite, qui va porter le projet. Il s'appelait Fernand Enguerrand, et il va faire voter le tout premier congé maternité. Il était d'une durée de 8 semaines. Cette loi porte d'ailleurs son nom, c'est la loi Enguerrand. Alors dans un premier temps, ce congé n'était pas rémunéré, ça va le devenir petit à petit. Et la première profession à avoir eu droit à un congé mat intégralement payé, eh bien, ce sont les maîtresses d'école.
Pourquoi l'État a donné ce nouveau droit aux femmes ?
Alors qu'on soit clair, Apolline, si on a donné ce congé, c'était pas seulement par bienveillance, c'était surtout par pragmatisme.
Et rarement juste par bienveillance.
Exactement. À l'époque, la baisse de la population inquiétait déjà les politiques, donc on faisait tout pour maximiser les naissances. Et pour ça, il fallait à la fois limiter la mortalité infantile et la mort des femmes pendant l'accouchement, ce qui était assez fréquent à l'époque. Et donc, une des meilleures solutions, eh bien, c'était le congé maternité, puisque ça protégeait à la fois les femmes et les nourrissons. En 1946, ce congé passe à 14 semaines, et en 1980, à 16 semaines.
Et les pères, alors, dans l'histoire ?
Alors, les pères, pendant longtemps, eh bien, ça n'a pas intéressé grand monde. Ils n'avaient pas le moindre droit. Un père, c'était fait pour gagner de l'argent. Et c'est tout. Mais en 1946, tout change. Pour la toute première fois, les pères ont le droit à 3 jours de congé rémunéré. Alors, c'était un peu symbolique, mais ça devient très concret en 2002, puisque ça passe à 14 jours et en 2021 à 28. Donc, cette nouvelle loi, eh bien, elle concerne aussi beaucoup les pères, puisqu'elle accroît le temps passé avec leur nouveau-né.
Merci beaucoup, Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Mon tout premier, il est né juste après cette annonce. Et donc, le papa avait pu prendre les fameux 11 jours. Et je me dis, mais j'aurais pas imaginé que ça puisse être autrement. Alors maintenant, heureusement qu'il y a encore plus de temps. Il est 7h23, on accueille Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Votre cinquième enfant.
Non. Il s'appelle Arnaud. C'est mon nouveau-né. Le voici. Arnaud, tout à l'heure sur RMC, BFM TV. Je m'occupe de vous un petit peu.
Mais oui,
un
allez.
Mon invité, donc à 8h30, c'est le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.
Oui, c'est vous qui l'avez. Parce qu'à la base, Fabien Roussel, il était prévu sur BFM Business. Ah, Manu oui. Le Chypre voulait l'interroger.
Banquier. Bonjour. Et oui, nous sommes avec Fabien Roussel. Et c'est pas le communiste qui m'intéresse ce matin, mais le spécialiste des barbecues. Oh. C'est la saison. Quelles sont vos astuces merguez, vos recommandations chipo? Quelle durée pour une bonne marinade?
Oui, alors moi, je suis venu parler d'économie à la base.
D'économie? Vous êtes communiste. Parlez pas de ce que vous connaissez pas. Alors, les merguez, quelle cuisson?
Ben, nous, au PCF, on fait griller nos saucisses sur un feu de pneus. C'est pas cher comme combustible.
Des pneus ? Vous êtes vraiment des monstres, les communistes, à tous les niveaux.
Mais bon, finalement, c'est vous qui l'avez eu, Roussel. Et la direction s'est dit que c'était plus sérieux. C'est quand même une présidentielle qui commence. Et c'est un des 126 candidats de gauche.
Voilà.
Alors, non, je déconne, il y en a quand même un qui se présentera pas. C'est Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, qui a appelé à un rassemblement derrière Jean-Luc Mélenchon. Le NPA qui soutient LFI, c'est la fusion-acquisition la moins capitaliste du monde. C'est une vanne, BFM Business. On les embrasse. Bon, après, c'est juste 0,1% des voix. C'est un peu comme participer au remplissage d'une piscine en venant avec un verre d'eau.
Ouais.
Pas sûr que ce soit... Et puis bon, les 0,1% qui votaient NPA, à mon avis, c'était juste parce que Philippe Poutou avait un nom rigolo. C'est quand même marrant, Poutou, on va pas se mentir. Pas de Poutou en 2027.
Ça va nous manquer.
Pas de Poutou en 2027, Apolline. C'est le bon vieux temps du Covid. Bref, Roussel, c'est l'un des 12 candidats à gauche à se présenter. Donc c'est beaucoup. Il va falloir organiser un maillon faible pour
faire à 14, je crois.
Le tri d'ici le mois de mai.
À mon avis,
14.
Vous en manquez deux. Ouais, depuis. C'est comme les buts dans la prime de match. Il y en a
deux
tout le temps.
Non, il va falloir organiser un maillon faible pour faire le tri d'ici le mois de mai. Vous êtes au maillon faible, qui fera honte à son propre camp, qui fera moins de 5% au premier tour, qui ne sera pas remboursé de ses frais de campagne. C'est le maillon faible de la gauche. Pour 1%, Raphaël Glucksmann, qu'y a-t-il juste derrière le périph? La jungle, faux, la banlieue, François Hollande, un homme qui a 3 femmes est appelé un...
et un président, un beau gosse, un félin, un polygame. Vous êtes tous des maillons faibles. Au revoir. Et rendez-vous avec Fabien Roussel à 8h30.
Un félin. Merci Arnaud. Arnaud Demange qu'on retrouve à 8h15. Pour l'heure, il est 7h26 et on se retrouve dans un instant pour la météo de journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Et Géraldine le disait à l'instant, un nouvel épisode de forte chaleur semble bel et bien au programme. La semaine prochaine, certains s'y préparent déjà à résigner. Un oligarque ukrainien victime d'une attaque au colis piégé hier soir à Monaco. Son pronostic vital est engagé. Et puis le Maroc, le Brésil qualifié pour les huitièmes de finale avec aussi le Paraguay tombeur de l'Allemagne. Et c'est la première sensation de cette Coupe du Monde de football.
On vient à peine de sortir d'une canicule et déjà, Météo France annonce un retour des fortes chaleurs.
À partir du 6 juillet, lundi prochain, et ce nouvel épisode caniculaire pourrait bien durer toute la semaine. Des prévisions encore à affiner, bien sûr, mais la crainte est bien là, notamment pour ceux qui vivent dans des bouilloires thermiques. C'est le cas de ces habitants de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, que vous avez rencontrés pour RMC, Caroline Renaud.
Au pied de sa tour d'immeuble, Zouina redoute une nouvelle vague de chaleur.
Au secours.
Son programme est déjà bien rodé.
On va repartir à rebaisser un petit peu les volets et pour mettre la clim. Et puis on repart avec les ventilateurs. C'est épuisant, moralement comme physiquement. On a beaucoup de mal à remonter la pente, quoi. Parce que ça fatigue énormément.
De bâtiment plus loin, Henriette vient à peine de retirer les tissus qu'elle avait apposés sur ses fenêtres.
C'est ça que j'aimais, pour empêcher que le soleil entre dans ma chambre.
Dans son appartement, encore une chaleur moite, irrespirable et la température qui ne baisse pas.
On n'a même pas digéré ça, quoi. Et ça reprend encore. On ne va pas supporter cette chaleur-là. La chambre-là, il n'y aura pas moyen d'y dormir. Hein.
Comme chez Sarah, 3 fenêtres sur 4 exposées au soleil, sans voler, ses 2 enfants ont déjà souffert ces derniers jours.
Ils se réveillaient en pleurant, mouillés de transpiration. Ils se levaient de leur matelas pour s'allonger par terre.
Alors, si les températures grimpent à nouveau, elle a pris sa décision.
On va essayer de fuir. C'est de la torture de rester ici.
Elle a prévu de se réfugier chez sa mère, à la montagne. On va suffoquer autrement, dit-elle.
4 départements sont encore en vigilance orange, canicule dans le sud de la France. Et dans le nord, à côté de Valenciennes, des jumelles de 15 mois ont été retrouvées mortes chez elles hier. La piste de la déshydratation est privilégiée. Les parents sont en garde à vue. RMC, 7h32, un oligarque ukrainien victime d'une attaque au colis piégé hier à Monaco. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect a pris la fuite vers la France. Il est encore activement recherché ce matin. Âgé de 58 ans, l'oligarque ukrainien et sa compagne ont été tous les deux grièvement blessés. Un adolescent de 13 ans a lui aussi été touché. Et cette explosion, elle a eu lieu en début de soirée dans le hall d'un immeuble en plein centre-ville, Amélie Courté.
Quand l'explosion retentit, Sébastien est en famille à 50 mètres de là, à la terrasse d'un bar.
On regardait le match Brésil-Japon et à la fin du match, aux alentours de 21h, on a entendu un gros boom. Hein.
Très vite, il se rend sur place.
Il y avait un jeune aux cheveux longs ensanglantés avec des espèces de morceaux de verre qui étaient plantés, ainsi qu'une dame sur le porche donc de l'immeuble. Qui avait l'air sans vie, à l'intérieur un monsieur aussi qui avait l'air sans vie.
Les 3 victimes sont un couple d'environ 50-60 ans et un adolescent de 13 ans. L'homme serait un oligarque ukrainien. Silvano habite à 2 pas.
C'était une scène de guerre, quoi. Honnêtement, une scène de guerre.
Lui aussi est arrivé avant les secours.
Moi, j'ai été choqué de voir la femme qui n'a plus de pied. Elle est en lambeaux, la pauvre. Hein. Comme mon épouse est médecin urgentiste à Monaco, j'ai vite téléphoné pour qu'elle vienne donner les premiers soins. Elle a fait les garrots parce que franchement, elle était vraiment mal au point. Moi, quand je l'ai vu, c'était un cauchemar, hein, je peux vous dire. Hein.
Les 3 blessés ont été transportés dans 2 hôpitaux à Nice, à 20 kilomètres de Monaco.
La taxe sur les petits colis, taxe de 2 euros pensée pour lutter contre les plateformes de e-commerce, Shein, Temu ou encore AliExpress, eh bien, elle va être suspendue dès demain. Elle n'aura donc duré que 4 mois. Le gouvernement explique cette décision par un nouveau droit de douane européen de 3 euros qui va prendre le relais. Et on en reparle dans le journal de 8h sur RMC. L'autoroute A69 entre Castres et Toulouse va bel et bien voir le jour. Et c'est le Conseil d'État qui autorise de manière définitive la poursuite du chantier. Rangeant donc du côté du gouvernement, au grand dam des associations écologistes, cette autoroute, elle est censée raccourcir de 20 minutes le trajet entre Castres et Toulouse et elle sera opérationnelle au mois d'octobre. RMC 7h34, le texte sur la fin de vie, il va être soumis au vote de l'Assemblée nationale cet après-midi. On va vers la fin de ce feuilleton long de 4 ans. Les députés devraient adopter pour la 3e fois ce texte. Ce n'est pas le vote final, il est prévu pour le 15 juillet, mais Romain Cluzel, le texte qui va donc être adopté aujourd'hui devrait dessiner plus précisément les conditions de la future aide à mourir.
Exactement, parce que les 5 critères pour bénéficier de cette aide à mourir ont été confirmés par les députés lors des débats la semaine dernière. Être français, atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée, avec une souffrance physique ou psychologique, et qui exprime son souhait de façon libre et éclairée. Un texte quasiment identique à celui adopté en deuxième lecture en février dernier. Et c'était l'objectif des députés en faveur de ce texte, maintenir l'équilibre obtenu pour s'assurer que le texte soit bien voté à l'Assemblée. Un seul gros changement est à noter, et cela concerne le délit d'entrave. Très décrié par ses opposants, cette mesure visait à sanctionner toute pression ou empêchement d'accéder à l'aide à mourir. Les députés ont supprimé ce dispositif.
Romain Cluzel du service politique de RMC.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Maroc qualifié pour les huitièmes de finale. On a vécu la séance de tir au but haletante contre les Pays-Bas en direct ce matin, ensemble sur RMC. Mais la première sensation de cette Coupe du Monde de football, c'était quelques heures plus tôt, une autre séance de tir au but où le Paraguay s'est imposé face à l'Allemagne, déclenchant des scènes de liesse dans la capitale du pays d'Amérique du Sud. Ouais, ambiance impressionnante, émotion à Asunción, où le président a même décrété un jour férié aujourd'hui pour continuer cette fête, pour fêter cette qualification en huitième de finale qui tranche avec l'état d'esprit côté allemand. Encore un rendez-vous manqué pour la Mannschaft, forcément très déçu Aurélien Tiersin.
Cette Allemagne n'en finit plus de décevoir. Joshua Kimmich est en pleurs. Il est le capitaine de cette génération perdue qui n'a rien gagné depuis 12 ans.
Oui, c'est dur. Bien sûr que ça ne fait pas plaisir. Quand on regardait l'équipe nationale, quand on était enfant, c'était toujours des finales, des titres de champion du monde. Ça nous a beaucoup marqué et c'est quelque chose qu'on aimerait aussi transmettre aux enfants et aux gens chez eux. Une fois de plus, nous n'avons pas réussi à susciter cette euphorie.
L'Allemagne n'a rien montré sur le terrain. Stefan Osterhaus, journaliste allemand, a du mal à comprendre.
Je crois que je n'ai pas vu un match aussi mauvais depuis des décennies.
Et les supporters de la Nationalmannschaft tombent de haut également. Ils vont devoir patienter encore au moins 4 ans pour vibrer.
C'est ultra décevant, mais si tu ne marques jamais, tu ne gagnes pas. Il faut reconstruire maintenant et espérer encore pour la prochaine Coupe du Monde.
Je suis tellement déçu. C'était bien, mais encore une fois, ça ne passe pas.
En Allemagne, la pression va s'intensifier sur l'équipe et sur le sélectionneur Julian Nagelsmann. Touché mais combatif, il ne démissionnera pas.
Et s'il se qualifie ce soir, les Bleus pourraient donc affronter le Paraguay en huitième de finale, à condition de battre la Suède. Le coup d'envoi, c'est à 23h.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Vichy à 18h30.
Le pronostic de Frédéric Kita de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le 13, Inno du Lupin, et son outsider, le 10, Easterman.
C'était le journal de Rachel Sadodine à 7h37. On retrouve tout de suite Eric Dimeco. Bonjour Eric.
Bonjour Pauline.
Les Bleus en lice donc pour une place en huitième de finale. Le match, il est ce soir 23h en direct et en intégralité sur RMC. Est-ce que vous avez peur d'une sorte d'excès de confiance des Bleus, Eric ?
Oh non, là sur bon, d'abord c'est une équipe expérimentée maintenant avec un coach qui connaît ce genre de piège et qui doit leur les sermonner là depuis quelques jours justement sur ce fameux excès de confiance qu'on peut avoir. Tout le monde présente l'équipe de France comme les grands favoris après le premier tour, mais Didier sait faire. Non, et moi je suis plutôt confiant. L'adversaire qui nous est proposé et pas un des favoris, c'est une équipe qui va nous proposer, par contre, sur notre plan défensif, un peu plus que ce qu'on a vu au premier tour. Ils ont 3 bons attaquants, voire 3 très bons attaquants, et ça c'est bien pour nous aussi d'être testé à ce niveau-là.
D'être testé, exactement. Alors si la France gagne, elle affrontera le Paraguay, qui a battu l'Allemagne au tir au but cette nuit. Ça aussi c'est une surprise, cette nuit d'ailleurs il faut le préciser, on y revient aussi dans un instant. L'Allemagne et les Pays-Bas ont été sortis, mais donc le Paraguay en face de nous.
Bah, c'est une bonne surprise entre guillemets puisque on pensait que l'Allemagne allait s'en sortir facilement. Cette équipe du Paraguay a pas montré grand chose depuis le début de la compétition, sauf que les Allemands sont tombés dans le piège. Match difficile, penalty, et du coup c'est quand même pas plus mal. Les Allemands, il y a toujours une histoire particulière avec cette équipe et cette nation. Voilà, donc là le Paraguay, c'est quand même, si on passe, bien sûr.
Si on passe, je grille un peu les étapes.
Oui. On va s'avancer un peu, mais ça ce sera quand même pour un huitième de finale un adversaire très abordable.
Eric, on va accueillir Jamel qui nous appelle de Liévin dans le Pas-de-Calais. Bonjour Jamel.
Bonjour Apolline.
Vous avez vibré cette nuit parce que cette nuit, le Pays-Bas a été éliminé par le Maroc. Ça s'est terminé là, il y a juste une heure.
Exactement, et c'est ce qui nous a valu une belle soirée foot chargée en émotions entre le Brésil, l'Allemagne et le Maroc qui a clôturé la soirée et qui nous a vraiment tenu en haleine.
Tenu en haleine, c'était une nuit de foot quoi.
C'était une nuit de foot, vraiment une des plus belles soirées de cette Coupe du Monde, j'ai envie de dire.
Et le, et le Maroc top. Épatant, honnêtement, les toutes dernières minutes et les tirs. Eric Dimeco, ça, le Maroc, il va falloir les prendre très très au sérieux hein, désormais.
Oui, oui, mais tout le monde les prend au sérieux. Hein. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, finaliste, voire vainqueur, on le saura plus tard, de la CAN. Sur le résultat de la nuit, j'ai regardé le match.
On ne sait plus.
Oui, et à la limite, on va les laisser se débrouiller. Mais,
voilà.
Mais
s'ils gagnent la Coupe du Monde, bon, bah, au moins,
voilà, on exactement. Saura. J'ai regardé le match, il mérite quoi, techniquement. Voilà, même si les Hollandais en contre posaient pas mal de problèmes et auraient pu se qualifier puisque les Marocains égalisent juste dans le temps additionnel. À l'arrivée, malgré tout dans le jeu, j'ai l'impression que les Marocains étaient supérieurs.
Merci beaucoup Eric Dimeco, ancien international tricolore, consultant à RMC Sport qui nous accompagne évidemment tout au long de cette Coupe du Monde. France-Suède, c'est donc à 23h sur RMC en direct et en intégralité avec la Dream Team RMC en direct de New York. L'avant-match ce sera dès 18h et l'after-foot jusqu'à 5h, une nuit de foot comme le disait Jamel à l'instant. Il est 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et cette nuit, le foot, elle a été largement suivie.
Bah alors, attendez, parce que moi, j'ai Carole, par exemple, qui nous dit son pronostic pour ce soir. Ce soir, la France va gagner. Carole est sereine. Ensuite, j'ai des supporters des Bleus qui se lèvent tôt. On peut les comprendre. Émilie nous dit en se levant à 3h, impossible pour moi de regarder le match de la France. Pareil pour Thibaut qui nous dit c'est trop tard pour moi, 23h, le match France-Suède. Alors, il y a le morning à partir de 5h où, évidemment, vous saurez tout de ce qui s'est passé. Cela dit, les Marocains, je les vois, eux, ils ont fait nuit blanche. Hein. Jamel qu'on a eu à l'antenne, je sais pas s'il était en fin de soirée ou en début de journée pour aller travailler. Les Marocains qui célèbrent la victoire de leur équipe sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424. Damien, lui, nous dit j'ai pas beaucoup dormi. J'ai 36 ans, 3 enfants, mais fan de foot depuis toujours. Et là, c'est parti pour une heure de route pour mon école d'aide-soignant. Bonne journée à vous, nous dit Damien ce matin. Sinon, vous continuez aussi à réagir à la fois à la canicule passée et à celle qui est annoncée pour la suite. J'entends qu'une autre vague arrive, nous dit Sophie, mais les magasins concernés, encore une fois, personne ne s'est anticipé. Rupture de clim, on est décidément impréparé et après on va se plaindre qu'on aille acheter sur Amazon.
Voilà vos messages, vos réactions au 32-16. Et puis on va passer à la politique tout de suite avec cette question. Et si la gauche s'occupait à nouveau, vraiment, pleinement du pouvoir d'achat? Bonjour Philippe Brun.
Bonjour Apolline.
Vous êtes député socialiste de l'heure, vous êtes le monsieur économie du parti socialiste. Vous trouvez qu'on ne parle pas assez des salaires et vous avez une proposition, baisser la CSG pour les salariés qui gagnent moins de 4000 euros par mois. Voilà l'une de vos propositions, comment on finance, comment on fait pour relancer le pouvoir d'achat, pour replacer la question d'économie au cœur de la gauche. Vous nous le dites dans un instant sur RMC, 7h42.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h44 et on parle politique et pouvoir d'achat sur RMC et RMC Story. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour Apolline.
Vous êtes député socialiste de l'heure, vous êtes le monsieur économie du Parti Socialiste et vous trouvez qu'on ne parle pas assez des salaires dans le débat public et que globalement peut-être la gauche s'est un peu éloignée des questions de pouvoir d'achat. Vous avez une proposition ce matin, faire baisser la CSG pour tous les salariés qui gagneraient moins de 4000 euros. Pourquoi ?
Aujourd'hui, on a un gros problème. On demande à 21 millions de salariés du privé, 5 millions de salariés du public de financer à eux seuls la protection sociale de 70 millions de Français. Les salariés, aujourd'hui, c'est les vaches à lait du système. Ils payent énormément. La différence entre le salaire brut et le salaire net, elle est gigantesque. Et je ne parle pas de la masse salariale. La différence entre la masse salariale et le salaire net. Aujourd'hui, on a un gros problème de pouvoir d'achat en France. Moi, ce que je propose, c'est qu'on baisse assez massivement la CSG pour permettre aux gens d'avoir davantage de salaire net, rapprocher le brut du net. Et comment on finance ça? Eh bien, on met davantage à contribution les rentiers, les revenus du capital, les très gros héritages. Et ça permet de mieux répartir, finalement, le financement de la sécurité sociale.
Vous avez même créé un simulateur, ça s'appelle salaire-brun.fr. C'est-à-dire que vous associez votre nom directement au fait de pouvoir gagner plus, quoi. quoi.
Vous allez à salairebrun-fr et vous pouvez calculer combien ça va vous rapporter. Parce que l'idée, c'est de dire les salariés payent trop aujourd'hui, sont les vaches à lait du système. C'est eux qui payent à eux seuls la protection sociale du pays. Il faut mieux répartir l'effort. Le capital est très peu taxé. Le travail est beaucoup trop taxé aujourd'hui en France. Moi, je propose de détaxer le travail.
Est-ce que la gauche s'est éloignée des questions d'économie ?
Oui, et puis de manière générale, des ouvriers et des employés. Aujourd'hui, les ouvriers et employés majoritairement ne votent plus pour la gauche. Pourquoi ? Parce qu'on s'est, je crois, égaré dans des questions un peu périphériques. Or, la gauche, elle a été inventée à la fin du 19e siècle pour défendre le pouvoir d'achat, défendre les salaires, défendre les intérêts des ouvriers et des employés. Et c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui, revenir à ses fondamentaux.
Et vous allez faire comment, vous, pour revenir sur ses fondamentaux ?
Eh bien, moi, je serai candidat à la primaire interne du Parti Socialiste pour défendre
cette idée. Vous serez candidat ? Vous nous annoncez ce matin que vous êtes candidat à l'élection présidentielle via la primaire.
Absolument. Moi, je serai candidat à la primaire interne. Il ne s'agit pas d'ajouter une candidature extérieure. Le Parti Socialiste organisera une primaire en octobre. Nous en décidons ce soir. Et je serai candidat pour porter cette ligne populaire, pour que la gauche ne soit plus à côté de ses pompes, pour qu'enfin on reparle aux gens qui nous écoutent ce matin sur RMC, qui sont au volant de leur voiture et auxquels la gauche ne parle plus depuis trop longtemps maintenant. C'est une équipe qui m'accompagne, des jeunes députés qui sont avec moi, comme Romain Eskenazi, qui est mon directeur de campagne, de jeunes élus députés.
Ah, vous avez carrément, ça y est, une équipe de campagne.
Nous voulons réveiller le Parti Socialiste. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est une belle endormie. Ce que nous voulons demain, c'est que les gens, ils aient envie de voter à gauche, qu'ils aient envie de voter pour nous et qu'on fasse des propositions pour changer concrètement leur quotidien.
Philippe Brun, moi je vous connais. Mais vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vous connaissent.
Oui.
Ça ne vous étonne pas, ça ne vous surprend pas. Vous vous dites, ça y est, je peux me lancer, je suis à la présidentielle.
On se croyait à la primaire interne et puis on aura un débat qui va nous permettre avant tout de faire valoir des idées.
Je veux dire, nous, on vous reçoit régulièrement. Vous êtes en effet très souvent mon interlocuteur sur les questions d'économie, vraiment le monsieur qui parle économie du côté de la gauche. Mais est-ce que cette candidature de plus, c'est pas une candidature de trop ? J'ai regardé ce matin, j'ai essayé de faire la liste déjà globalement et j'ai un peu du mal parce que je sais plus où est-ce qu'on arrête les compteurs. Enfin, si on imagine qu'il y a déjà Ruffin, Vallaud, Guedj, Boimran, alors il y a ceux qui sont officiels, pas officiels, Cazeneuve, c'est pas encore tout à fait le cas, mais enfin ça y est, il a lancé son site internet, Olivier Faure, ça ne devrait tarder, Glucksmann, Tondelier, Lucas, Hollande, c'est quasiment fait. Autain, Bateau, j'en oublie sans doute. Et vous, donc, désormais, Philippe Brun, est-ce que vous vous dites pas que c'est trop ?
Écoutez, on ne sait pas qui ira jusqu'au bout. Il y a une primaire interne du Parti Socialiste, il y a toujours beaucoup de candidats. Apolline de Malherbe, en 2011, il y avait 7 candidats.
Bah là, il y en a déjà plus.
Et là, ce n'est pas la primaire du Parti Socialiste. Et de toute façon, à la fin, il y aura un vote qui permettra de trancher. Moi, je suis le seul à porter cette ligne-là. Je suis le seul à parler de salaire. Jean-Luc Mélenchon, il a fait quand même un discours pendant 2h30 à Saint-Denis où il n'a pas utilisé une seule fois le mot salaire. Je n'entends pas non plus beaucoup parler de pouvoir d'achat chez Raphaël Glucksmann. Ma candidature, c'est une candidature d'idées. C'est de dire, on est une nouvelle génération d'élus socialistes et on en a marre que le Parti Socialiste soit à côté de ses pompes. On a envie de retrouver les ouvriers et les employés. On a envie de parler des problèmes du quotidien, notamment du pouvoir d'achat qui est le principal problème du pays. On va tourner la page de 10 ans de Macron. 10 ans de Macron, c'est l'explosion des prix du logement, plus 60% dans les métropoles, l'explosion des prix alimentaires, plus 27% depuis les 3 dernières années, l'explosion des prix de l'énergie, plus 40% sur les 4 dernières années. Donc voilà le bilan. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Cette candidature, c'est une candidature d'idées. Remettre la gauche du côté des travailleurs et défendre avant tout la question du pouvoir d'achat qui est centrale dans la vie des Français.
Vous adressez aux travailleurs, redonner du pouvoir d'achat aux Français et passer par la primaire, c'est à qui ça ? C'est-à-dire que là, vous allez, ça y est, vous avez annoncé donc votre candidature. Ce soir, officiellement, normalement, il y a la primaire qui va être décidée. Vous en êtes sûr ?
Oui, bien sûr, c'est la décision qui va être prise ce soir au Conseil national.
Vous aspirez à ce que d'autres soient candidats à cette même primaire ? Par exemple, les Verts, par exemple, les communistes. Je reçois tout à l'heure Fabien Roussel.
Pour l'instant, c'est une primaire du Parti Socialiste avec place publique. C'est cela que nous allons décider ce soir, donc avec Raphaël Glucksmann et puis d'autres.
Il est OK, Raphaël Glucksmann, pour passer par cette case primaire ?
Je ne suis pas son porte-parole. Et
mais vous souhaitez, en tout cas, que cette primaire...
Il faut rassembler largement. Il faut un seul candidat à la fin qui rassemble tout cet espace, qui va des écologistes aux communistes, en passant par les socialistes, bien sûr.
Merci beaucoup, Philippe Brun, d'avoir été mon invité
Merci
ce matin.
Apolline,
je rappelle que vous venez donc de nous annoncer, Philippe Brun, vous-même député socialiste de l'heure, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle via la primaire du Parti Socialiste. Il est 7h50 sur RMC. C'est une ancienne ministre de gauche, Cécile Duflot, qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Notre voix de gauche, le RN, présente aujourd'hui son grand plan clim. Écoutez Marine Le Pen, c'est la semaine dernière.
Pour un grand plan clim, évidemment, on ne peut pas condamner des personnes âgées dans les EHPAD, des enfants dans les écoles, des malades dans les hôpitaux à subir des niveaux de chaleur qui ont une influence directe sur leur santé.
Cécile, est-ce qu'elle a raison?
Un plan climat à 26 milliards, ah non, 40 milliards, non priorisé, non financé. Soit le RN ment, soit ils sont incompétents, et d'ailleurs peut-être même les deux.
Vous nous le dites dans un instant, la voix de gauche, c'est mardi, et c'est sur RMC, 17h51.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52 dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus, Mathieu.
Avec la chanteuse Dua Lipa qui ouvre une librairie au Portugal. Alors, loin du tumulte des salles de concert qu'elle remplit, on va silencieusement découvrir une bibliothèque à Porto, la Manifesto Library, comme son nom l'indique, un espace militant, une collection en réalité d'ouvrages censurés, interdits ou contestés. On va notamment y retrouver La Servante Écarlate de Margaret Atwood, référence littéraire féministe, ou encore les œuvres de Salman Rushdie, symbole de la lutte pour la liberté d'expression. L'initiative répond en fait à la multiplication des interdiction de livres, notamment aux États-Unis, des livres qui abordent le racisme, la justice sociale, des écrits pour les lecteurs LGBTQIA+, qui sont parfois retirés des rayons ou des bibliothèques scolaires. Dua Lipa proposait déjà en fait un club de lecture Service 95. Désormais, son engagement se matérialise dans un lieu, un espace en fait, dans une librairie centenaire de la ville portugaise. Je cite, un sanctuaire, ce sont ces mots, ceux de Dua Lipa, qui ouvre sa librairie.
RMC, Apolline Matin. Voix de gauche. Voix de droite.
7h53, le mardi, c'est la voix de gauche, c'est Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cet après-midi, le RN annoncera son plan clim. L'objectif, c'est de climatiser 100% des hôpitaux, des écoles, des bureaux. Le Rassemblement National qui propose aussi un prêt à taux zéro pour que les particuliers puissent s'équiper de clim. Ça pourrait coûter jusqu'à 40 milliards d'euros. On ignore encore pour l'instant comment il serait financé. Votre réaction, Cécile?
En fait, ce qui est assez déprimant, c'est que on est à un moment où il faudrait vraiment une mobilisation générale, et y compris ceux qui ont dit n'importe quoi, et Marine Le Pen en fait partie. Elle disait que le GIEC était alarmiste, catastrophiste. On est en train de se rendre compte que peut-être ils étaient au contraire plutôt optimistes. Qui disent on s'est trompé, du coup il faut faire autrement. Et donc là en fait c'est le contraire, c'est la surenchère dans un truc qui est complètement virtuel. Il y a presque 60 000 écoles, collèges, lycées, rien que ça, sans compter les EHPAD. Sur quel type de climatisation ils se battent, comment, qu'est-ce que ça a comme impact énergétique, parce que ça veut dire beaucoup plus de consommation électrique. Qu'est-ce qu'on fait quand le réseau électrique est fatigué, que les transformateurs risquent de sauter, comme on l'a vu la semaine dernière. Bref, on voit bien que tout ça c'est complètement amateur, c'est, il y a rien qui est travaillé, rien qui est sérieux. Et ce qui est cynique, c'est de justement dire aux gens que vous allez voir, vous allez être tranquille parce que vous allez avoir une clim. C'est un mensonge, et c'est vraiment très cynique, parce que je pense qu'ils savent parfaitement que c'est faux.
C'est cynique pour vous, mais la climatisation, ça peut pas être une solution?
Alors ça doit l'être, ça l'est. Par exemple, en Espagne, il y a des solutions. Il faudrait que tout le monde ait un lieu frais pour pouvoir s'y rendre, géré par les pouvoirs publics. À Barcelone, on a fait ça. Il y a des points frais dans lesquels tout le monde peut se rendre à moins de 3 minutes de chez soi. Ça, c'est la bonne solution. Mais on sait très bien que la généralisation de la climatisation, ça résout sans doute pas un certain nombre de problèmes, ça en crée potentiellement d'autres. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui travaillent dehors? On peut pas climatiser les rues. Les impacts sur la nature, là, les impacts sur l'agriculture et les éleveurs, par exemple, vont être dramatiques. Donc, ça n'est pas la solution. La solution, c'est la baisse drastique de nos émissions. La solution, c'est aussi s'intéresser aux plus fragiles. Et là où le RN est cynique, c'est qu'ils ont voté contre le fonds social climat qui était dans le plan vert et qui, justement, visait à dire les plus vulnérables, les plus ceux qui sont le plus en difficulté, on doit les aider prioritairement.
Alors, dans l'improvisation, il y a aussi le gouvernement qui annonce en catastrophe la commande de climatiseurs pour 100 millions d'euros.
Oui, c'est pas à la hauteur du problème, ça, on a, parce qu'en fait, entre 100 millions et 40 milliards, il y a un peu un truc un peu plus réaliste. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'occuper des hôpitaux de manière prioritaire, pour deux raisons. D'abord parce que laisser des malades dans des bâtiments surchauffés, ça n'est pas acceptable. Et ensuite parce qu'on sait que le système de santé va être encore plus en tension du fait du dérèglement climatique. Donc là, c'est sûr une priorité, la question des bâtiments hospitaliers, et surtout de ceux qui ont eu un sous-investissement pendant des années. Donc on est plus autour d'un milliard, et ça c'est une dépense prioritaire.
Mais alors, on fait quoi du coup? Si on fait pas ça, on fait quoi?
Eh ben, on marche sur ses deux jambes. C'est-à-dire qu'on remet vraiment sur le métier un plan national d'adaptation au changement climatique financé, priorisé, et on met tout le monde dans cette histoire, et on travaille sur l'atténuation, parce que chaque dixième de degré qu'on arrive à limiter par la baisse des émissions va nous éviter beaucoup de catastrophes. Là, je pense que tout le monde est en train de comprendre. Donc il faut absolument limiter nos émissions de gaz à effet de serre et travailler sur ce plan d'adaptation simultanément. Ça doit être le grand chantier, et ça devrait même être le sujet prioritaire de tous ceux qui envisagent d'être candidats en 2027.
Merci beaucoup Cécile Duflot. Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Demain, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. Il est 7h56. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une France-Suède. 16e de finale de la Coupe du Monde, c'est ce soir à 23h. Les dernières infos sur les Bleus dès le début du journal. Il y aura aussi la météo. Géraldine nous dira qu'il y a à peu près les mêmes températures qu'hier. Et puis après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, vous nous alertez sur le risque d'avoir un accident sans être assuré. Attention.
Le nombre de conducteurs sans assurance a presque doublé en l'espace d'une petite décennie.
Et ça peut être une catastrophe, vous nous le dites dans un instant. 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
7h59, la météo, c'est à peu près la même qu'hier, Géraldine?
C'est à peu près la même chose qu'hier, donc on reste toujours en vigilance orange canicule sur le sud-est, Var, Alpes-Maritimes et Corse, où les températures restent toujours très élevées. Ailleurs, alors certes, on a un répit par rapport à la canicule, mais on est toujours au-dessus des normales de saison, hein, quand même 3 à 5 degrés. Donc cet après-midi, on devrait aller de 20 degrés à Brest jusqu'à 36 à Marseille, 35 à Perpignan, à Montpellier, à 33 à Lyon, Grenoble, 31 à Clermont-Ferrand, 30 à Paris, Bourges ou Toulouse, 29 pour Bordeaux, 25 à Lille. Il faudra encore se méfier des orages pour aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, vers les frontières de l'Est, où localement on pourra avoir des orages assez violents avec de la grêle et beaucoup de vent. Et puis si on a quand même un certain répit au niveau des températures, ça ne va pas durer puisque dès dimanche, les températures vont à nouveau s'envoler avec une vague de chaleur qui est prévue, qui est vraiment quasi sûre. Reste à savoir si on parlera de canicule, c'est encore un tout petit peu tôt pour le dire.
Merci d'avoir choisi RMC. Excellente journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Maintenant, ça passe ou ça casse à la Coupe du Monde. Nous sommes au matin du 16e de finale de la France contre la Suède. Premier match donc à élimination directe de ce mondial pour les Bleus. Nous serons à New York dans ce journal avec nos envoyés spéciaux. On va faire le point aussi sur la chasse à l'homme au lendemain de l'explosion qui a fait 3 blessés, dont 2 graves à Monaco. Un oligarque ukrainien certainement visé. Et on reviendra aussi sur cette marche arrière ce matin du gouvernement qui suspend, et on vous dira pourquoi, sa taxe de 2 euros sur les petits colis.
Les choses sérieuses commencent pour les Bleus.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors jusque-là, tout s'est bien passé pour nos Bleus qui ont gagné leurs 3 matchs de poule. Mais désormais, on parle de match à élimination directe. Autrement dit, une défaite et c'est fini. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez commenter le match ce soir à New York. Pas le droit à l'erreur ce soir pour les Bleus contre la Suède en 16e de finale.
Oui, c'est un premier vrai test à plusieurs niveaux d'ailleurs. Déjà, la motivation des Suédois pour tenir le plus longtemps possible dans un match à la vie à la mort. La Suède n'est pas forcément plus armée que le Sénégal, que les Bleus ont battu sur le premier match. Mais cette équipe jouera sa survie et on l'a vu depuis le début des 16e de finale, cette volonté peut suffire à niveler les valeurs. Ensuite, car cette sélection a des armes, surtout en attaque. Le duo Victor Gyökeres-Alexander Isak, auteur de 2 buts et 5 passes décisives depuis le début du mondial, l'Europe se l'est arraché à l'image des 210 millions d'euros qu'ils ont coûté à eux deux, respectivement à Arsenal et Liverpool, des talents qui vont ainsi nous permettre de juger le réel niveau de notre défense, un peu trop mise en difficulté sur le premier tour aux yeux de Didier Deschamps. Parmi les 4 défenseurs qu'il alignera, on notera le retour de William Saliba, ménagé contre la Norvège, et de Lucas Digne, dans une alternance avec Théo Hernandez. Il ne faut pas non plus faire une montagne de la Suède, qui présente des carences en défense, à l'image des 5 buts encaissés contre les Pays-Bas, une équipe qui s'est qualifiée dans la difficulté en passant par les barrages de la zone Europe.
Et donc, on va encore veiller avec vous, Jean-Louis Tour, ce soir, à 23h pour ce match. C'est très tard, encore une fois, depuis le stade de New York, où les Bleus sont très soutenus par leurs supporters qui y croient et qui ont donné de la voix déjà cette nuit avec un rassemblement. Valentin Jamin, vous y étiez, parce qu'on est partout sur RMC, au pied du célèbre pont de Brooklyn.
Oui, par dizaines, ces supporters lèvent leurs écharpes, chantent devant les touristes qui filment. Léger et serein, même si tout pourrait s'arrêter ce soir, Michel, qui agite un drapeau, est tranquille.
Pas stressé du tout, calme, parce qu'on est sur notre force. Je pense que la Suède est à notre portée. Je n'ai jamais vu une équipe de France aussi solide, aussi forte en attaque.
Les 3 victoires en 3 matchs, une première sous l'ère Didier Deschamps, ont impressionné les observateurs du monde entier, mais aussi Pamela, maillot sur le dos, venue en famille.
C'est une des plus fortes de 98 ou 2018, c'est
je pense que celle-ci est une des plus fortes qu'on ait eues. C'est beau, leur jeu est fluide, ils ont l'air sereins sur le terrain en plus, donc c'est vraiment cool. On a confiance.
Et les supporters français se retrouvent dans cette équipe spectaculaire, meilleure attaque de la phase de poule, et Loïc se projette très loin.
On est les favoris, aujourd'hui on ne peut plus se cacher. On a un pouvoir offensif qui est unique dans cette compétition. Le but c'est de se venger contre les Argentins en finale et de se rattraper de ce qu'on a connu au Qatar il y a 4 ans.
Mais avant, il faut penser à éliminer la Suède et ne pas imiter l'Allemagne sortie hier par le Paraguay.
Oui, parce que c'est une des informations de la nuit. Donc le Paraguay qui a éliminé au tir au but l'Allemagne, sensation de ce mondial. Un jour férié a carrément été décrété au Paraguay. Et c'est au tir au but aussi que le Maroc s'est qualifié tôt ce matin contre les Pays-Bas. On a vécu ça en direct sur RMC. C'était plein de suspense depuis Monterrey au Mexique, où les supporters marocains ont explosé de joie.
Mais c'est le match le plus délirant de toute la Coupe du Monde. Mon cœur, je m'en montre, 165 BPM, j'allais mourir, je pensais que c'était la fin. On rate, on réussit, on rate, on réussit, mais à la fin, on a gagné.
On est très fiers, notre équipe, on est vraiment, vraiment heureux. On va y aller loin dans cette compétition. On est venu ici pour prendre la Coupe et le ramener au Maroc.
Aujourd'hui, ils ont démontré que c'est une équipe aussi bonne que la France, le Brésil, l'Argentine.
Vive le Maroc !
Et alors il fallait avoir le cœur bien accroché aussi pour la qualification du Brésil 2-1 contre le Japon avec un but dans les arrêts de jeu. On espère quand même que ce sera donc plus tranquille ce soir à 23h pour l'équipe de France face à Suède, 16e de finale que vous vivrez donc en direct sur RMC Radio officielle. À 8h05 sur RMC, c'est toujours la chasse à l'homme ce matin dans le sud-est de la France. On est au lendemain de l'explosion qui a fait 3 blessés. C'était hier soir à Monaco où les autorités parlent d'un probable attentat. Un suspect donc a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de déposer un colis piégé dans un immeuble. Ce colis a explosé. Il a blessé 3 personnes, dont 2 gravement. Un oligarque ukrainien, sa femme et certainement leur enfant de 13 ans. Romain Houk pour RMC. Que sait-on de cet oligarque ukrainien?
Eh bien, il s'appelle Vadim Ermolaïev. Il a 58 ans et c'est tout simplement la 23e plus grosse fortune d'Ukraine, selon le magazine Forbes, qui estime son capital à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est une personnalité particulièrement sulfureuse qui fait partie de ce qu'on appelle le bataillon de Monaco, de riches Ukrainiens qui auraient fui la guerre pour s'exiler dans de fastes villas ou appartements monégasques. Le service d'investigation ukrainien l'a inscrit sur une liste de 84 riches ressortissants ayant potentiellement déserté le pays. Vadim Ermolaïev a créé son empire dans l'immobilier, l'agroalimentaire, même dans le système bancaire. Il a notamment fait fortune dans les vins de Crimée dont il est originaire. Personnalité particulièrement controversée en Ukraine. Il fait même l'objet de sanctions promulguées par Volodymyr Zelensky, lui-même depuis 2023, accusé d'avoir poursuivi ses activités en Crimée malgré l'occupation russe. Il est par ailleurs dans le viseur de la Banque Centrale Européenne pour violation de la législation sur le blanchiment d'argent. Quant à l'enquête, elle se focalise sur un homme au chapeau noir, filmé par des caméras de vidéosurveillance, qui a pris la fuite à pied en direction de Beausoleil, une commune qui jouxte Monaco, où il a à nouveau été filmé avant de disparaître. 40 gendarmes français et 2 hélicoptères participent en ce moment même à sa traque.
La liste s'allonge. Une candidature de plus à la présidentielle à gauche ce matin, vous l'avez appris en écoutant RMC, c'est le député socialiste Philippe Brun qui se lance dans la bataille. Et on verra, tiens, si le communiste Fabien Roussel sera candidat lui aussi pour cette élection présidentielle. Il sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Autre info ce matin, c'est le gouvernement qui fait marche arrière sur les petits colis en renonçant finalement à la taxe de 2 euros qui est en place depuis le mois de mars sur les achats à l'étranger, notamment sur les plateformes chinoises. Cette taxe était censée s'ajouter à une taxe européenne de 3 euros qui entrera en vigueur demain. Finalement, Victor Joannin, vous êtes en direct avec nous ce matin, ce sera pas le cas.
Oui, Quentin, la taxe française de 2 euros est suspendue dès demain. Il faut dire qu'elle est largement contournée par Chine, Temu et leurs concurrents qui font atterrir leurs avions cargo en Belgique pour ne pas avoir à la payer, puis qui acheminent les colis jusqu'en France par camion, alors que la nouvelle taxe européenne de 3 euros s'appliquera partout sur le continent, y compris en Belgique. À compter de demain, donc, tous les petits colis d'une valeur inférieure à 150 euros qui arriveront sur le sol européen seront taxés 3 euros par catégorie d'articles, donc 3 euros par exemple pour l'ensemble des t-shirts contenus dans un colis, 3 euros pour l'ensemble des paires de chaussettes, etc. Cette taxe devait à l'origine s'ajouter à la taxe française de 2 euros, entrée en vigueur il y a 4 mois, mais le gouvernement français décide donc finalement de renoncer à cette taxe française pour ne plus être contourné par la Belgique et pour récupérer une partie du trafic de fret aérien. qui avait quasiment disparu. Notre objectif était de pousser l'Europe à prendre des mesures et nous avons obtenu gain de cause, se félicite-t-on dans l'entourage du ministre du Commerce, Serge Papin.
Et autre info que donne le ministre retient ce matin, c'est la période des soldes qui est prolongée jusqu'au 28 juillet, début de cette période qui a été compliquée en raison notamment de la canicule. C'est vrai qu'on redoute un troisième épisode de canicule chez nous en France la semaine prochaine. Bah, c'est pareil aux États-Unis, des températures ressenties à plus de 40 degrés sont attendues dans les prochains jours. Et alors à New York, eh bien les autorités recommandent la climatisation en estimant que c'est le moyen le plus efficace pour éviter les maladies et les décès liés à la chaleur, en particulier chez les personnes âgées.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 sur RMC, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, les conducteurs sans assurance sont de plus en plus nombreux, c'est une mauvaise nouvelle.
Oui, 5,8% des véhicules impliqués dans un accident grave n'étaient pas assurés en 2025, c'est ce que nous dit l'étude que vient de publier le Fonds de garantie des victimes. 5,8% donc en 2025, il n'était que 3,5% en 2018. Il faut rappeler que lorsqu'un accident de voiture est provoqué par un conducteur qui n'est pas assuré, eh bien c'est ce fonds de garantie des victimes qui prend le relais des assureurs pour indemniser les victimes. Au total, 7500 personnes ont été accompagnées en 2025. C'est un peu moins qu'en 2024, sauf que ces accidents ont été plus mortels et ont coûté plus cher au fond, parfois des millions par accident. Le fléau, c'est aussi la forte augmentation des accidents de trottinettes électriques, presque 10% de hausse sur un an. Ils sont plus nombreux que l'ensemble des accidents de tous les deux roues. Donc c'est vraiment une très forte augmentation et on rappelle que la moitié des conducteurs de trottinettes ne seraient pas assurés.
Qui sont ces conducteurs qui roulent sans assurance ?
Alors, les ouvriers, étudiants et personnes au chômage ou sans activité sont majoritaires parmi les conducteurs non assurés. La moitié ont moins de 30 ans et résident souvent en région parisienne. Alors on comprend bien pourquoi ils ne s'assurent pas, hein, parce que ça coûte trop cher. Alors rappelons que le défaut d'assurance est sanctionnable d'amendes pouvant aller jusqu'à 3 750 euros, que les contrôles de la police sont de plus en plus efficaces pour repérer ceux qui n'ont pas d'assurance, que l'assurance est obligatoire pour les trottinettes. Pour 60 euros par an, vous avez très facilement une assurance trottinette. Et puis surtout, en cas d'accident, eh bien, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qu'il faudra rembourser au fonds de garantie. Ça ruine toutes les vies concernées par ce genre d'accident.
Et puis les chiffres du jour, bah ça se stabilise, Emmanuel.
Alors c'est le mot, tout est stable aujourd'hui. Le gazole, 1,88€, le sans-plomb 95, 1,89€. Là on est sur des baisses de à peine un centime en une semaine. Le pétrole, stable, $72,80 le baril. Et puis le gaz, toujours 42€ le mégawatt.
Ça veut dire qu'il y a un plancher en quelque sorte.
Yeah, exactement.
Merci Emmanuel. Il est 8h11 sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demange revient pour nous faire rire à 8h30. Notez-le, mon invité dans le face-à-face, ce sera le patron du PCF, du Parti communiste, Fabien Roussel. Face à la canicule, la réponse du gouvernement n'a pas été à la hauteur. Voilà ce qu'il dénonce. Et puis j'interrogerai aussi sur ces petits colis. Est-ce qu'il faut continuer à culpabiliser d'ailleurs les acheteurs de Chine, de Temu? Et puis la France qui fait machine arrière, vous l'avez vu, marche arrière sur la taxe sur les petits colis. Il renonce. Juste après, il y aura le choix de la rédaction, ça ce sera à 8h50, Mathieu.
Oui, comment lutter contre le surtourisme? Un peu partout en France, les destinations les plus visitées s'organisent pour limiter le nombre de visiteurs. Et puis à 23h, premier match à élimination directe des Bleus. C'est ce soir sur RMC, France-Suède, les toutes dernières infos à 8h50.
On se retrouve dans un instant sur RMC, 8h11.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour.
Il est avec nous, salut Arnaud.
Bonjour Apolline, Élise,
coucou.
Géraldine,
Mathieu.
Ah dis donc, Apolline, bravo, alors vraiment bravo.
Qu'est-ce que j'ai fait?
Vraiment, voilà, je viens d'entendre sur votre antenne le député Philippe Brun.
Ah oui, j'en ai rajouté un.
PS, ouais, annoncer sa candidature. Je vous laisse 2 secondes sans surveillance, vous nous sortez un nouveau candidat à la présidentielle. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Comment? Faut éteindre les lumières du studio, hein, ça les attire. Allez, ce soir, la France affronte la Suède.
On est dans le noir.
Parfait. Allez, ce soir, la France affronte la Suède en 16e de finale de la Coupe du Monde. Musique.
Allez, la France, allez, il faut gagner.
Alors, qui a chanté ça?
La France entière.
qui a chanté?
Oh là, là, j'avoue, je.
Eh bien, c'est un disque made in RMC. Ah. C'est Jean-Pierre Foucault et Léon en 78. C'était les deux animateurs phares de RMC à l'époque. C'est un peu comme si Apolline sortait un disque avec Gilbert Bribois.
Je prends Gilbert.
Oui. Qui c'est le plus fort?
Évidemment, c'est les bleus.
Allez, Apolline, chante, danse, mets tes baskets. On t'écoute, encourageons nos bleus.
Chante.
D'accord.
Danse.
Allez Griezmann.
Ouais, bon, finalement c'est mieux si tu fais des interviews de Bruno Retailleau.
Bref, après avoir écrasé la Norvège, on passe à la Suède. Les pays scandinaves, ils vont avoir plus peur de Mbappé que de Poutine. Et on en est qu'au 16e de finale, hein. C'est interminable cette compétition. On en est à 232 matchs, 128 équipes. J'ai une copine là qui me disait: j'ai commencé à regarder le mondial célibataire, je vais le finir avec deux enfants et une pension alimentaire. Vous avez vu les scores de cette nuit? Le Paraguay a battu l'Allemagne, quand oui. même. Donc l'Allemagne a un peu gagné finalement, parce que le nombre de paisibles citoyens germaniques qui sont partis en Amérique du Sud en villégiature en 45, ça fait que... Et un des gros favoris, c'est l'Argentine. Leur moitié de tableau, elle est quand même très cool. Vous avez vu, ils vont affronter ouais. le Cap-Vert. Après, c'est soit l'Australie, soit l'Égypte. Et derrière, le plus redoutable, c'est la Suisse, quoi. La FIFA, s'ils avaient pu leur programmer Gibraltar ou le Vatican, ils l'auraient fait. C'est 11 vieux qui se prennent les pieds dans la soutane et qui draguent Messi.
Mais t'es tout petit, mon petit bonhomme. Je ne suis pas un enfant, je suis Lionel Messi. Mais tu me rappelles quelqu'un. Mais je ne suis pas maire de Nice non plus.
Alors, Gabriel Attal qui veut surfer sur la Coupe du Monde et l'engouement autour des paris sportifs.
Oui, parce qu'il vient de sortir, vous avez peut-être vu, un concours de pronostics. C'est sur son appli de campagne, Gabriel, non, sur l'appli Attal Président.
D'accord.
Il y a des petites vidéos où il parle, il dit: je pronostique 2-1 pour la France, et si tu me bats en pronostic, il y a une surprise. Et c'est quoi la surprise?
C'est quoi la surprise? C'est la question que j'allais vous poser, c'est comme la tombola.
Si vous trouvez tous les scores des Bleus, vous devenez Premier ministre.
Ah ouais.
Il n'y a pas le choix, hein, tous mes soutiens, ils se barrent. Vous avez vu, il a perdu Maude Bréjon hier.
Eh ouais.
Alors c'est dommage, mais moins que s'il avait gagné, Maude Bréjon.
Oh.
Alors j'espère qu'il ne mise pas toutes ses économies en paris sportifs, fatal. Sinon Macron, il va gueuler. Gabriel, je peux savoir ce que tu fais avec ton téléphone et ma carte bleue? Attendez, hein, papa président, j'ai trouvé un moyen de combler la dette du pays. Je vais la jouer sur Winamax. Mais enfin, t'as mis 1 milliard sur la victoire des îles Curaçao face au Brésil. T'es ma boule. Ouais, t'as confié les finances du pays à Bruno Le Maire, hein, t'es joueur aussi. Alors, au prochain face-à-face entre Apolline et Gabriel Attal, et ben on aura ainsi deux experts du ballon rond. Gabriel Attal, pensez-vous qu'Adil Rami peut marquer ce soir contre la Suède? Madame de Malherbe, c'est impossible. Il est défenseur, Adil Rami. Non, moi je vois plus Teddy Riner marquer le deuxième essai dans le troisième quart-temps. Mais Gabriel Attal, il n'y a pas de carton au foot, vous confondez avec le Tour de France. Et il y a Gilbert Bribois qui va débarquer en hurlant: mais qu'est-ce que vous racontez? C'est ce bordel, la plus de l'honneur. C'est la dernière semaine.
Oh ouais, vous avez
on lâche les élastiques.
Arnaud, on en sait un peu plus sur la venue du pape Léon XIV à Paris à la rentrée.
Oui, il va faire une messe géante à Paris en septembre, place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Macron, il va être jaloux. Et ça va, hein? Moi aussi, j'ai réussi à attirer la foule sur les champs. Bon, alors, le pape, il a remplacé les gilets jaunes par des chasubles blanches, mais sinon, c'est pareil, hein. Jésus, il s'est fait aimer en rendant la vue aux aveugles. Moi, j'ai rendu aveugle des gens qui m'aimaient pas. C'est pareil.
C'est sûr.
Alors, j'espère que les supporters du pape seront moins chauds que ceux du PSG, qu'il n'y aura pas de casseurs. Vous imaginez tous les chroniqueurs de CNews, Christine Kelly et Philippe Bilger et Philippe Devilliers, qui jettent des pavés dans les vitrines. Taillot! Alléluia! Christine, prenez ce pavé et brisons toutes ces vitrines impies. Oh oui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est... Oh mon Dieu, c'est très lourd. Je n'arrive pas à lancer ce projectile. Donnez-le-moi. Oh oui. Sur ce boutique hérétique, les halal aux vêtements, les Levis, les Pravda, je vais allumer un incendie dans un quick halal. Attendez, Philippe, je vais vous aider à allumer cet incendie. Mais Philippe Bilger, vous avez tout éteint, mon incendie. Allez, on va tout casser, sauf la vitrine de Christian Lacroix. Oh oui, et à demain. Et gros bisous.
Ils sont dans la colonne de ah. Oh mon Dieu, à demain, Arnaud de...
Oui, c'est mon nom, c'est Arnaud de Manche.
On va avoir du mal là, il est 8h20.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il y a Stéphanie, oui Stéphanie qui nous appelle de Saône-et-Loire, qui est professeure des écoles. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour.
Vous êtes un peu superstitieuse ce matin, non? Vous avez peur qu'on soit trop confiant sur le match de ce soir?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, oui, j'ai pas du tout envie. Alors, j'ai confiance, hein, l'équipe de France, on a des sacrés joueurs, on a les meilleurs, je pense parmi les meilleurs joueurs au monde. Mais je voudrais pas qu'on soit déçus ce soir avec un but à la dernière minute comme hier.
Vous préférez qu'on la joue, qu'on la joue modeste, qu'on la joue un peu profil bas, qu'on y aille tranquille, quoi.
Oui, franchement.
Je suis d'accord.
Oui,
ah,
mais il y a un signal qui est envoyé sur les grosses équipes quand même. Le Brésil qui a eu les plus grandes difficultés avec le Japon, l'Allemagne éliminée.
C'est pour ça que Stéphanie
les Pays-Bas,
c'est tout à fait ça.
Ouais, c'est pour ça que Stéphanie elle flippe. Mais Stéphanie, vous allez pouvoir en profiter tranquille ce soir parce que c'est la dernière journée d'école là, non?
Ah non, on a encore jeudi et vendredi.
Ah, vous avez encore jeudi et vendredi.
Oui.
Et alors du coup, vous allez vous retrouver effectivement à... Mais demain, il n'y a pas école. C'est
demain,
ça.
Demain, il n'y a pas école.
Donc ce soir, vous pouvez être complètement tranquille. 23h, pas de problème.
Oui.
Voilà. Mathieu, on revient quand même demain matin. Mathieu aurait voulu faire comme vous, Stéphanie Lagrasse, pas demain matin. Mais non.
Pour avoir le match, c'est pas moi.
Je ferai pas grâce mat, moi, demain matin. Non. Mais en attendant. Non, j'ai des rendez-vous demain matin. Mais je pouvais pas rater un match, même si c'était 3h du matin. Il est hors de question.
On sent que vous êtes au taquet. Il y en a certains qui ont déjà prévu une petite sieste. Hein, une petite sieste en fin d'après-midi. Et hop.
Moi, par exemple.
Ah, voilà. Voilà. Arnaud et Mathieu, vous allez louper le match?
Moi, je crois que je vais louper celui-ci.
Voilà.
Je crois, c'est le dernier que je loupe.
Hein. On est obligé de faire des stratégies.
Il y a un moment pour réfléchir,
des
on est que mardi, quoi.
Merci Stéphanie, bon courage pour la dernière semaine de cours. Effectivement, Stéphanie qui est professeure des écoles en Saône-et-Loire. Il est 8h22, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, c'est la politique. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, qui est mon invité dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français. Vous êtes aussi maire de Saint-Amand-les-Eaux. Très nombreuses questions à vous poser ce matin et aussi sur la position du Parti communiste dans l'élection présidentielle. Mais d'abord, sur la canicule. Vous avez écrit ces mots, la France crève de chaud pendant que le gouvernement laisse les Français étouffés dans les transports, au travail, dans les logements mal isolés. Ceux d'en haut vivent sous climatisation. Alors, le plus dur de la canicule est derrière nous, mais un nouvel épisode est sans doute à venir dès le début de la semaine prochaine. Est-ce que le gouvernement a laissé crever, pour reprendre vos mots, est-ce qu'elle a laissé crever les Français?
C'est un coup de colère parce que, comme beaucoup de mes collègues maires, on s'est retrouvé face à une situation terrible de canicule et on est en colère surtout parce qu'il y a une forme d'inaction de la part du gouvernement. Ça fait des années et des années, je dirais même des décennies, que les climatologues alertent en disant il y a le réchauffement climatique qui est là, il faut changer nos modes de consommation, nos modes de circulation, nos modes de production, travailler sur les logements, l'isolation des logements, l'adaptation de notre société, parce que il y a le réchauffement climatique. Il est là. Donc, de toute façon, il faut s'adapter. Et en même temps, il faut aussi faire en sorte que ce réchauffement ne s'accélère pas. Et donc, il faut travailler sur des mesures de long terme. Il faut du court terme et du long terme. Et sur les deux leviers, je regrette qu'il n'y ait pas eu les mesures, les ruptures qu'il fallait mettre en place.
Est-ce que vous considérez, il y a plein de questions dans ce que vous soulevez, et notamment aussi la question d'une inégalité face à la canicule. Vous dites ceux d'en haut vivent sous climatisation. On sait que c'est aussi les plus modestes qui ont été les plus touchés. Mais Fabien Roussel, je vous repose la question. Vous dites que le gouvernement laisse les Français étouffer. Est-ce que le gouvernement a une responsabilité? On a évoqué pour l'heure un premier bilan. 1000 morts supplémentaires. C'est ce que Santé publique France annonce. 57 morts rien qu'hier en région Île-de-France, directement liés à la canicule. Est-ce que le gouvernement a une responsabilité dans ces décès?
Le gouvernement, il a une responsabilité quand il baisse les moyens donné aux bailleurs sociaux et au logement social. Il a une responsabilité quand il baisse les moyens du fonds vert. Il a une responsabilité quand il baisse les moyens de la rénovation des maisons particulières et privées. Il a une responsabilité quand il donne, quand il baisse les moyens, quand il pompe les moyens au transport public et qui fait qu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de prendre le train que de l'avion. Sur tous ces sujets, oui, il a une responsabilité. Il a une responsabilité quand il ne donne pas les moyens au budget de la sécurité sociale pour que nos hôpitaux, nos soignants puissent travailler dans de bonnes conditions et que les personnes malades soient dans des chambres qui soient fraîches et climatisées. Oui, de tout ça, on n'en peut plus. C'est pour ça qu'on a besoin de changer d'air dans les deux sens du terme et donc une nouvelle ère politique qui tienne compte des bouleversements climatiques et qui mette en place et des mesures d'urgence. D'urgence, j'espère qu'on va en parler. Oui, il faut de la clim, il faut mettre des volets, il faut isoler les toits des bâtiments parce que c'est une urgence, parce que ceux qui sont tout en dessous des logements sociaux sont ceux qui souffrent le plus. Il faut adapter le travail des salariés.
Mais
il faut aussi, investir sur le long terme, investir dans le mix énergétique, investir dans l'isolation des bâtiments publics, rendre les transports publics moins chers. Nous avons travaillé sur tout
ça. Vous avez un gros plan.
Nous avons travaillé. Nous sommes
empreinte 2050, ça s'appelle plan climat pour la
nous
France.
Nous sommes la seule force politique, je le dis, la seule. Je mets les autres au défi de travailler à une trajectoire neutralité carbone d'ici 2050 comme nous l'avons fait sur tous les sujets: agriculture, logement, déplacement, production, industrie, services publics, qui montrent quelle trajectoire la France doit prendre pour justement réduire ses émissions de gaz à effet de serre et en même temps adapter notre pays aujourd'hui à l'urgence.
Donc
climatique.
Les deux, l'urgence et le long terme. Mais Fabien Roussel, vous venez d'évoquer la question des logements sociaux. En Espagne, ils ont décidé d'imposer la clim dans les logements sociaux. Est-ce qu'il faut faire pareil? Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui les bailleurs sociaux, tout comme ils ne loueraient pas un appartement sans chauffage, sans ascenseur, et encore on sait que souvent ils tombent en panne, est-ce qu'il faut imposer que ces logements sociaux aient la clim?
Mais oui, dans certains cas.
Mais c'est-à-dire mais dans certains cas, il y a
parce qu'il y a des endroits.
La clim, la chaleur, elle a touché tout le territoire.
Mais parce qu'il y a des endroits, c'est la clim qu'il faut mettre en place. Il y a d'autres endroits, j'en ai parlé avec Yann Brossa sur Paris, qui a
Yann Brossa, élu communiste à Paris.
Qui a été en première ligne aussi avec ses collègues ici à Paris sous la canicule. Je disais, ceux qui habitent au dernier étage, là où ça chauffe le plus, là, l'urgence, c'est de mettre en place tout de suite une isolation au moins du toit. Il y a ceux qui sont orientés vers le sud et ceux qui sont orientés vers le nord. Il y a des endroits pour les uns et pas pour les autres. Mais c'est pour ça qu'on doit travailler ville par ville, bailleur par bailleur, sur les meilleurs moyens pour répondre aux urgences qui aujourd'hui s'expriment. Et il n'y a pas une solution. Celui qui dit, comme le Rassemblement National, avec la clim, on règle tout, c'est du vent. Il brasse de l'air, le Rassemblement National, c'est du cinéma. Il n'y a pas que la clim qui va régler les problèmes. Ce serait tellement si simple si c'était
ça. Si je vous pose cette question, c'est que c'est un gouvernement de gauche en Espagne qui décide de dire la clim doit être dans tous les logements sociaux, dans certaines villes.
Je n'oppose pas. Oui, il faudra investir dans de la climatisation. Dans les logements sociaux.
Est-ce que c'est les bailleurs sociaux qui doivent le faire?
Oui, c'est pour ça que nous demandons des moyens aux bailleurs sociaux. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme. C'est pour ça que nous réclamons d'ailleurs un véritable plan Marshall pour le logement. Rénovation des logements privés. Nous demandons à ce que le budget de l'ANA, il passe à 12 milliards d'euros contre 4 aujourd'hui pour rénover 700 000 logements par an. Nous demandons que les bâtiments publics bénéficient de 5 milliards d'euros supplémentaires pour que nous, les communes, les collectivités, les hôpitaux puissent rénover les bâtiments publics. Nous demandons 3 milliards pour les logements sociaux pour justement mettre de la clim, des volets, de l'isolation. C'est une urgence. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un véritable plan Marshall qui fasse et de l'urgence et du long terme. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, ils vont devoir choisir la priorité de ceux qu'ils doivent soigner ou laisser mourir.
Plan,
c'est grave quand même.
Il y a
ce plan
100 millions de clim d'urgence qui a été débloqué par le gouvernement. Ça vous semble à la hauteur?
c'est de l'urgence. Le gouvernement aujourd'hui fait ce qu'il peut parce que ils ont pas mis les moyens avant. Donc je vais pas dire que c'est pas bien, il faut le faire. Et nous en avons besoin dans toutes les communes. Nous en avons besoin. Les communes, nous on a dû activer un plan.
Je rappelle que vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux.
Face à la canicule, j'ai décidé de déclencher le plan communal de sauvegarde. C'est notre plan blanc à l'échelle d'une commune pour mobiliser dans l'ensemble des services, réquisitionner les bâtiments publics qui sont aujourd'hui climatisés, mais on est démunis face à tout ça. Ouais. J'ai besoin que l'État nous accompagne beaucoup plus dans la rénovation de nos bâtiments, dans justement l'achat de c'est pas l'achat de clim portable, c'est climatisé. C'est climatiser des écoles.
De manière structurelle.
Mais bien sûr. Et ça, il faut qu'on le fasse dans l'année qui vient, jusqu'aux prochaines canicules.
Est-ce que vous avez à dénombrer, à déplorer des décès supplémentaires chez vous, à Saint-Amand?
Justement, non. Je touche du bois, pour l'instant. Et on sait qu'il y a toujours un temps.
Un peu un décalage.
Un décalage. Mais je voudrais saluer l'ensemble des agents publics sur l'ensemble de notre territoire national, comme à Saint-Amand-les-Eaux, qui ont passé des coups de fil deux fois par jour aux personnes vulnérables, âgées ou pas âgées, mais qui vivaient parfois dans des logements surchauffés, et à qui on téléphone deux fois par jour pour savoir est-ce que vous avez besoin d'eau, est-ce qu'il faut passer chez vous pour fermer les volets ce soir, est-ce que vous avez besoin d'un logement d'urgence. Ce sont des agents de la fonction publique, souvent des catégories C, mal rémunérés, je dirais, et qui sont en première ligne. La solidarité nationale, c'est aussi grâce à ces agents de la fonction publique, heureusement qu'ils sont là. Et nous n'en avons pas assez pour justement faire face à ce genre de canicule.
Vous avez dit, Fabien Roussel, il y a des hôpitaux où ils vont devoir choisir ceux qu'ils arrivent à soigner et ceux qu'ils laissent mourir. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que les services publics, d'ailleurs en général, que ce soit l'hôpital, mais on a évidemment, on sort à peine du drame de Liana. Hier, je recevais aussi le père de Louis qui racontait combien l'aide sociale à l'enfance avait, semble-t-il, failli aussi à protéger son propre fils. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des services publics qui ne savent plus protéger les Français?
On a des services publics qui ont été tellement affaiblis, qui sont aujourd'hui à l'os, comme on dit, et qui ont bien du mal à faire face à toutes les missions qui leur tombent dessus. Entre la canicule, qui fait une surcharge de travail pour les hôpitaux, pour les agents communaux, etc. La violence, la délinquance, qui fait que y a plus d'enfants à s'occuper, à suivre, la PJJ, l'aide sociale à l'enfance, les tribunaux, la gendarmerie, la police. Enfin, vous voyez que dans tous les secteurs, les services publics sont en souffrance. Comment vous dire, nous sommes de ceux qui, à gauche, et toute la gauche porte cette exigence de redonner des moyens à nos services publics. Ils ont été pointés du doigt comme responsables de la dette, comme si c'était eux qui coûtaient cher la France, alors qu'en fait, ils sauvent des vies. Et investir dans les services publics, c'est justement peut-être faire des économies demain, parce que quand on fait de la prévention, quand on s'occupe de nos enfants, quand on a les moyens de les protéger, c'est moins de drames, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Vous savez que sur la canicule, on va bientôt avoir plus de morts liées à la canicule que sur les accidents de la route. On en est là aujourd'hui.
Fabien Roussel, vous dites on a un problème de moyens. Gérald Darmanin hier soir dit encore imputer la question du drame et du dysfonctionnement majeur dans la mort de Liana à un problème de moyens, c'est ne pas vraiment cerner le problème. Est-ce qu'il y a un problème de moyens? Est-ce qu'il y a un problème de personnel? Est-ce qu'il y a un problème de serviteurs de l'État?
D'abord, il y a une enquête administrative qui a été faite. Cette enquête administrative, elle révèle quand même
des
dysfonctionnements et un manque de moyens. Donc moi, je vais pas dire c'est tout blanc ou tout noir. Mais
cette enquête, elle pointe aussi les responsabilités individuelles.
Bien sûr. Et elle pointe aussi des problèmes de moyens. Et ce gouvernement ne veut pas voir qu'il y a un besoin immense, urgentissime, de redonner des moyens à la justice, à la police de proximité, à la gendarmerie, aux moyens d'enquête, mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi à la PJJ pour nos enfants, au médico-social. Ce drame avec ce jeune Louis qui est placé dans une famille d'accueil faute de place dans des
médicaments,
dans
des foyers, il est
faute de place dans des établissements de médico-social.
On sentait une immense détresse
que j'ai vu tout à
en
fait.
Plus de la très grande douleur. Il dit j'ai frappé à toutes les portes, c'est-à-dire qu'il avait un enfant qui
tout
était difficilement gérable, qui faisait un certain nombre de cris, qui avait des troubles de l'attention. Il dit j'ai demandé de l'aide partout. finalement, on lui indique, on lui dit que l'aide sociale à l'enfance et le fait de le mettre en foyer pendant quelque temps, et il dit, mon fils a porté plainte pour des violences le 12 mai. Il n'a même pas été au courant. C'est-à-dire que le fils a 17 ans, il est mineur. Personne n'appelle ni la mère ni le père.
Mais c'est pour ça que quand je l'ai vu hier, dans votre émission, je me suis mis à sa place. Comme beaucoup, on se met à la place du père. Comment on aurait réagi? Vous imaginez qu'on a un enfant qui est atteint de TDAH, trouble du comportement.
Il n'a pas de solution.
Il demande à l'État de protéger son enfant.
Exactement.
Enfant meurt dans des circonstances les plus horribles, dramatiques. Mais c'est insupportable comme colère.
Qu'est-ce qu'on fait face à cette ultra-violence? Quelle est la réponse pénale qu'il faut apporter? Est-ce qu'il faut, comme le dit Gabriel Attal hier, revenir sur l'excuse de minorité?
Vous voyez bien que ce père, il dit pas ça.
Non, il dit pas ça.
D'ailleurs, il soutient les personnels de l'aide sociale à l'enfance en disant ils font ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance a bien du mal à recruter. Il leur manque près de 30 000 postes à pourvoir. La PJJ, la prévention de la jeunesse dans la police, manque lui aussi de moyens pour pouvoir encadrer les délinquants qui font l'objet de mesures de justice et qui sont dans la nature, parce que la police n'a même pas les moyens de les suivre. Il y a une faute de l'État, un manquement de l'État qui est ultra gravissime. Et j'en reviens à la politique que nous devons avoir en direction des services publics. C'est la protection de la nation, du peuple. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'investir fortement dans toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui sont sous-payés, mal reconnus, dont on dit qu'ils coûtent cher alors qu'on a besoin d'eux.
Sinon, vous en êtes où, vous, Fabien Roussel?
C'est-à-dire
par rapport à l'élection présidentielle, à votre position, LFI d'un côté, Parti Socialiste de l'autre.
Non, mais là, Pauline de Malherbe, on passe des drames que l'on vit en ce moment et vous basculez sur l'élection présidentielle.
Et vous avez commencé Fabien Roussel en disant c'est pour toutes ces raisons qu'il faudra changer d'air.
Ah, c'est sûr.
Vous ferez comment pour faire changer d'air?
Eh bien, justement, je pense qu'il y a besoin de mettre en place un programme de rupture complet avec ce que les Français vivent aujourd'hui. C'est changer d'air Macron, parce que 10 ans de macronisme, on en souffre.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura une candidature du Parti communiste?
Ça veut dire, je le souhaite et je la défends, et les communistes ont 6 mois pour en débattre pendant 6 mois, ça a commencé au mois de mars, ce sera terminé par un vote au mois de septembre. Moi, je défends le principe de cette candidature parce que justement, il y a besoin.
Quand vous entendez Philippe Poutou qui dit il faut tout être derrière Jean-Luc Mélenchon,
programme,
vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je veux parler du programme de rupture, ce que l'on va défendre auprès de nos concitoyens, justement en matière de service public, de pouvoir de vivre, dignement, avec un salaire, un travail. Vous savez que ça, l'empreinte climat, c'est plus d'un million d'emplois créés. Investir dans la planification écologique, c'est aussi une opportunité économique pour créer des emplois, offrir des alternatives à la jeunesse.
Quand on regarde le nombre de candidatures...
Voulons pas avoir à choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann ou un autre de la social-démocratie, parce que sur les programmes, nous ne nous retrouvons pas. Et donc, nous voulons justement que nos concitoyens aient le choix. Et cette question de pouvoir vivre dignement, mettre en place un programme pour le climat dans lequel il y a des différences notables avec les autres, pouvoir parler de la paix dans le monde, la paix en Europe, où là aussi nous avons des différences avec les uns et les autres. Nous voulons pouvoir faire en sorte...
Vous ne vous sentez pas proche des positions de Jean-Luc Mélenchon sur l'Ukraine, par exemple?
Mais l'élection
présidentielle... Quand on a des différences, ça veut dire quoi?
L'élection présidentielle sera l'occasion de présenter chacun son programme devant nos concitoyens. Moi, je ne veux pas passer mon temps à critiquer les autres, je veux convaincre les Français. Je veux faire en sorte de reconquérir cet électorat de gauche qui manque aujourd'hui à la gauche pour pouvoir être majoritaire et l'emporter.
Vous vous interdirez pas d'y aller vous-même?
Mais ça, c'est les communistes qui décideront. En tout cas, j'ai dit que j'étais disponible, prêt à y aller. Ma candidature, comme on dit, est à la disposition du Parti communiste français, et je respecte tellement la démocratie que j'en dirai pas plus, parce que c'est nous qui déciderons démocratiquement
de nos choix.
Chez nous, il y a de la démocratie.
Chez vous, il y a de la démocratie. J'entends, chez nous, effectivement, il n'y a pas eu de vote du côté de LFI. Un mot d'ailleurs sur les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, notamment autour du 7 octobre, puisqu'il a eu ces mots au minimum ambigus. Il nous faudrait faire croire, en effet, qu'il y aurait parmi nous des gens qui se réjouiraient du terrorisme. Et il ajoute, à supposer que les actes dont on parle soient bien du terrorisme. Il parle là des massacres du 7 octobre. Comment vous avez réagi à ça?
J'avais pas vu cette déclaration, donc j'ai pas réagi. Mais ce que je sais, c'est qu'on nous clairement pris position. J'étais interrogé à France 3 quelques heures après, et nous avons tout de suite dit que c'était un acte terroriste.
Ça veut dire que vous estimez vous qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Alors
nous avons
au minimum de l'ambiguïté.
Clair, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur la qualification de cet acte, de cette barbarie qui s'est déchaînée le 7 octobre.
Est-ce que ça veut dire
qu'à
vos yeux,
nous avons été aussi extrêmement clair sur la solution politique que nous défendons pour la reconnaissance de la Palestine, qui a le droit à un État vivant aux côtés de l'État israélien, et donc pour une solution politique à deux États. Et là aussi, nous avons été sans ambiguïté. Je sais qu'en ayant cette position-là, nous n'avons pas fait le buzz. Parce que nous, ça fait 60 ans que nous nous battons sur cette même ligne. De Georges Marchais à Yasser Arafat, jusqu'à Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent, moi-même. Nous avons toujours travaillé aux côtés de l'OLP. Pour défendre une Palestine libre, démocratique et laïque.
Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux,
vivant aux côtés d'un État israélien.
Est-ce que ça veut dire qu'à vos yeux, Fabien Roussel, ça fait partie des lignes de fracture, ce rapport-là, à cette question-là, avec, par exemple, LFI?
En fait, je regrette qu'il y ait cette différence parce que, justement, le peuple palestinien a besoin d'un mouvement très, très large, très unitaire pour être entendu. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que là-dessus, il n'y ait aucune ambiguïté sur le soutien que nous apportons au peuple palestinien et la solution politique que nous défendons. Et le terrorisme ne sera jamais, jamais pour nous une voie de passage pour faire entendre sa voix.
Vous avez un pronostic pour ce soir, pour les Bleus ?
Je dirais 2-1 pour la France. Nous avons la plus belle attaque, une des meilleures défenses. Et en même temps, ne soyons pas trop sûrs de nous. Je vois aussi que des équipes sur lesquelles on ne pariait pas peuvent mettre en danger d'autres équipes comme l'Allemagne
ou le
Brésil.
En sortant l'Allemagne ou en sortant encore les Pays-Bas. Merci Fabien Roussel.
Merci à vous
veillerez donc ce soir. Secrétaire national du Parti communiste français et maire de Saint-Amand-les-Eaux. Oui, vous me donnez votre programme. Je vais dire empreinte 2050. Plan pour la France. Vous êtes bien sûr RMC BFM TV.
Merci Apolline, il est 8h48 sur RMC, l'heure du choix de la rédaction. On va lutter contre le surtourisme. On vous emmène au Mont-Saint-Michel dans un instant. Et puis le Mondial de Virginie. Ah, aujourd'hui c'est jour de match pour les Bleus. Premier match à élimination directe, France-Suède. Restez bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le Mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin dans un instant. Avec vous toutes les dernières infos sur le Mondial avant le 16e de finale des Bleus ce soir. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Martin Lange, correspondant à RMC dans l'Ouest. Bonjour Martin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec vous, on s'intéresse au surtourisme. Ces lieux pris d'assaut l'été, faut-il faire comme Venise et mettre en place un péage pour entrer dans la Venise qui vient de mettre en place un péage pour entrer dans la cité des Doges. Alors, chez nous aussi, des sites sont confrontés au surtourisme. C'est le cas du Mont-Saint-Michel, Martin.
Oui Mathieu, le premier site touristique du pays, hors Île-de-France, près de 3 millions de visiteurs par an, et même en dehors des vacances scolaires, il y a beaucoup de monde, je l'ai constaté hier, des parkings pleins, de la queue pour prendre la navette et des rues pavées bondées. Jean-Marc Kobach est guide depuis près de 40 ans et pour fuir la foule, il m'a emmené sur une petite plage à l'extérieur des remparts.
J'adore venir ici, c'est qu'il n'y a, vous pouvez le constater, il n'y a personne. Ce qui est d'autant plus rare au Mont-Saint-Michel. Ce qui est insupportable, que ce soit pour ceux qui travaillent, ceux qui visitent, c'est la surfréquentation. Ça grouille, ça gueule, ça sent la frite. Je pense qu'à un moment, on devrait imposer des jauges. Pour des raisons de confort évidentes, mais également pour des raisons de sécurité et de conservation. Certains jours d'été, si on devait évacuer la rue principale, ce serait l'horreur. On n'y parviendrait même pas.
Alors, ces jauges, est-ce qu'on les envisage vraiment au Mont-Saint-Michel, Martin ?
Eh bien, pas du tout, Mathieu. J'ai posé la question à Hervé Biergeon. Il est directeur du développement et de l'accueil du public.
On ne fait aucune restriction, mais on est plutôt dans la recommandation. Et le Mont-Saint-Michel est une commune. Et dans les communes françaises, la loi de la République dit qu'on est libre de circuler comme on veut. Donc, ce n'est pas un parc de loisirs. On est conscient, en fait, qu'il y a du monde, mais on a tout à fait la capacité à accueillir tout le monde correctement.
Pas question non plus d'installer un péage comme à Venise, même si dans les faits, le stationnement 24 euros les 6 heures en période estivale oblige les visiteurs à payer. Selon lui, seule une quinzaine de dates pose réellement problème entre les ponts de mai et le mois d'août.
Mais alors Martin, il y a certains sites français qui ont pourtant adopté ces jauges.
Oui, pas très loin du Mont-Saint-Michel, sur l'île de Bréa par exemple, pas plus de 4700 visiteurs par jour, ou encore dans les Calanques près de Marseille depuis bientôt 5 ans. Si vous voulez visiter la Calanque de Sugiton l'été, il faut réserver à l'avance et seules 400 places sont disponibles. Gaël Berthaud est la directrice du parc national.
Le bilan, il est largement positif. Une nature qui reprend ses droits. On a donné un électrochoc à nos usagers pour leur ouvrir aussi les yeux sur la nécessité de préserver cet espace. Le parc national des Calanques a fait partie des premiers espaces naturels à avoir mis ça en place. Et aujourd'hui, on a plutôt plusieurs espaces qui viennent nous voir, espaces naturels, pour nous demander comment on a fait.
La mairie de Chamonix s'est notamment renseignée, elle qui voit plus de 1500 personnes visiter son lac blanc chaque jour l'été.
Alors un système de réservation gratuit, contrairement au péage de Venise.
Oui Mathieu, et c'est ce qui évite toute discrimination par l'argent. Et pour ceux qui veulent visiter ces lieux d'exception, la clé c'est d'anticiper, selon le géographe Rémi Knafou.
C'est vraiment une question d'avoir compris comment fonctionne le tourisme aujourd'hui dans un monde qui est plein, avec plus de 8 milliards d'habitants. Et ceux qui ont compris ça... s'y prennent un petit peu à l'avance et réservent. Quand la réservation est gratuite, il n'y a aucune sélection.
Même s'il existera toujours une discrimination ou une sélection entre ceux qui peuvent partir quand ils le souhaitent et les familles bloquées par les dates de vacances scolaires.
Merci Martin Lange, correspondant d'RMC dans l'Ouest. Allez, début des choses sérieuses à la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous, le journal de la Coupe du Monde ce matin avec vous bien sûr. Et ça y est, on connaît déjà les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale.
Ouais, les matchs à élimination directe ont commencé, ça y est, on a le Maroc qui s'est qualifié cette nuit au bout du suspense. Et c'est le moment en fait où on ne dort plus, parce que quand je dis au bout du suspense, c'était au bout des tirs au but, une séance dingue contre les Pays-Bas. Et il était près de 6h du matin quand le match s'est terminé.
Wake up.
Allez, une petite pensée au Maroc, hein, que la force soit avec vous au boulot aujourd'hui. On a peu dormi cette nuit, ça recommence ce soir avec les Bleus, France-Suède, c'est à 23h. Ouais, ça va bailler sec devant les machines à café.
Ouais, les Beatles, A Day in the Life. Alors on va faire comme si on était au stade pour voir ce France-Suède avec une autre musique omniprésente.
En fait, la musique, elle est partout dans cette Coupe du Monde. Chaque sélection a droit à 4 morceaux diffusés à des moments très précis. Allez, je vous en mets au MetLife Stadium de New York, comme si on y était. Charles Aznavour va résonner dans le stade après l'annonce de la compo de l'équipe de France. C'est comme ça à chaque match. Ensuite, on passe à l'échauffement et là, on s'ambiance un peu plus. Je suis comme ce son. Théodora, puis aussi avec Dizzy bien sûr, et puis aussi un peu de French Touch.
Justice.
Exactement. Je sais plus de quand ça date, mais ça fait un petit moment.
2007.
Au moins 15 ans.
2007.
Oui. Ah oui. 19 ans. Ok, ok. Mais bon, ce qu'on veut surtout entendre nous ce soir, je suis désolée, mais c'est ça.
Ah, là, je sais pas si c'est pas 99 même.
Ouais, je crois, ça passe pas l'année 2000, ouais. Daft Punk que vous entendez à chaque but des Bleus depuis le début de cette Coupe du Monde. On a de la chance parce qu'on l'a entendu beaucoup, pourvu que ça dure.
Alors, ça va durer, c'est Opta qui le dit.
Oui, Opta, vous savez, affine ses prévisions en temps réel pour cette Coupe du Monde. Après la phase de poule, le générateur de statistiques a fait 25 000 simulations du reste de la compétition. Autant vous le dire tout de suite, la finale, ce sera France-Argentine. On n'a pas déjà vu ça quelque part, je sais pas, mais bon, ouais. Ça va pas se terminer pareil, hein. Enfin, j'espère en tout cas.
Ce mardi 30 juin va être férié au Paraguay.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le président du pays pour fêter la qualification pour les huitièmes de finale. Les Paraguayens qui ont sorti l'Allemagne au tir au but hier soir. C'est fou parce que l'Équateur avait déjà décrété un jour férié après une victoire contre la Mannschaft en phase de poule. C'est bien, l'Allemagne multiplie les jours de repos en Amérique latine. C'est offert par la maison. Hein.
C'est offert par Berlin. Les États-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine dans la nuit de mercredi à jeudi en 16e de finale.
La quoi ?
La Bosnie-Herzégovine.
Parce que ça, il y a une journaliste américaine qui suit cette Coupe du Monde, qui fait un direct à propos de Team USA et qui évoque ce 16e de finale comme ça. And one thing about Bosnia, I could not point out where it is on a map. Voilà, je ne saurais même pas mettre la Bosnie sur une carte et je ne veux rien savoir de la Bosnie. Bon, si elle avait voulu prouver à quel point les Américains étaient nuls en géographie, ça ne serait pas pris autrement. Mais elle s'est excusée après en disant qu'elle avait été méprisante. Oui, il faut peut-être juste bosser. connaissez un peu, non?
Merci Virginie Fulpin. France-Suède, 23h sur RMC, en direct, en intégralité, avec la Dream Team RMC, en direct de New York, sur la radio officielle de la Coupe du Monde. L'avant-match, c'est dès 18h. Et l'after-foot, jusqu'à 5h du matin. Dans un instant, les grandes gueules, les GG, quel est le programme, mon cher Alain? Bonjour Alain.
Justement, on va en parler. Comment est-ce qu'on s'organise, ces gars-là? On va vous demander au 32-16 si vous avez posé votre matinée, si vous vous êtes organisé en fonction du calendrier et des horaires des matchs pour aller au boulot, ou si vous êtes mis au télétravail.
Dans le Morning RMC, on vous fera vivre la fin de Mexique-Équateur demain matin. Si vous voulez du teasing.
De quoi va-t-on parler dans les GG? D'une grève des loyers pour ceux qui n'ont pas de volet. Vous avez vu, c'est une pétition qui a été lancée. De ce jeune Hamza Ladouane, ce jeune ado, cet ado de 14 ans là, qui sème la pagaille au canal Saint-Martin. Et puis Karine Lemarchand qui assume l'échange qu'elle a eu sur Instagram avec le rappeur Chaotique par rapport au tueur d'enfants. Pour moi, tu enlèves la vie, on t'enlève la vie. Donc c'est le débat qui revient sur la peine de mort. Vous venez en discuter avec nous dans les GG au 32-16.